soir. Merci d'être venu. Donc là, on va faire une soirée sur la question des migrants et des questions que ça pose. On remercie l'Espace Pendesse France, on remercie Thierry Pasquier de l'Espace Pendesse France et de son aide précieuse et indispensable. Et donc, comme intervenant, nous avons Thomas Lacroix, qui est auteur, entre autres, de ce livre sur les migrants, un pasteur européen chez Armand Collin. Ensuite, il y aura une intervention de Frédéric Drogoul, qui est responsable psychiatrie à Médecins sans frontières France, ou plus, de, non, plus que France, International Monde. Martine De Vries, qui est de la plateforme Solidarité Migrants, à De Calais, donc il vient de Calais pour nous parler de la situation qui s'est terminée, qui va recommencer sans doute probablement bientôt. Et puis Yves Judeux, qui est le local de l'étape de la CIMAD à temps plein auprès des immigrés. Voilà, donc on va commencer par Thomas Lacroix, merci.
Bonsoir et merci beaucoup pour cette invitation. Alors effectivement, je suis chargé d'ouvrir ce panel. Je vais vous aborder la question par une focale très large, une focale un peu globale pour essayer de vous resituer un peu cette dynamique des migrations à une échelle planétaire et plutôt sur le temps long. Je pense que c'est nécessaire parce que je pense qu'il est nécessaire de rappeler que aujourd'hui, quand on parle de migrants, on pense à Calais. On pense aux réfugiés, on pense à ces personnes qui traversent sur des bateaux pneumatiques la Méditerranée. Mais les migrations, c'est beaucoup plus que ça. Et les migrants dans le monde, il y en a 250 millions, c'est à peu près 3% de la population. Quand on parle de migrants, en général, enfin, la définition, c'est un terme générique pour désigner toute personne qui quitte son pays, un pays dans lequel il a vécu, pour aller s'installer dans un autre pays. Alors ça comprend toute une palette chromatique de personnes allant de jeunes qui ont envie de découvrir le monde et de partir un peu à l'aventure, jusqu'à des migrants qui, eux, cherchent un meilleur emploi, une meilleure formation, un meilleur salaire, jusqu'à des personnes qui souhaitent rejoindre un conjoint, un membre de leur famille, un ami, ou des migrants qu'on appelle forcés, des gens qui n'ont pas choisi de quitter leur ville, leur village, mais qui doivent le faire pour fuir une des conditions soit politiques, soit économiques, soit maintenant de plus en plus environnementales, qui sont dégradées et qui ne leur permettent plus de survivre. Alors, donc 250 millions de personnes. Cette petite proportion de migrants forcés, elle correspond à ces réfugiés, demandeurs d'asile. Vous connaissez peut-être la différence entre les deux. Hein, c'est une question juste peut-être très terminologique. Hein, un demandeur d'asile, c'est celui qui arrive dans un État qui a été obligé de quitter son pays et qui fait une demande d'asile pour accéder au statut de réfugié. Et c'est qu'une seule fois que l'État d'accueil lui a reconnu ce statut-là, qu'il devient de facto un réfugié. On parle de 60 millions de personnes. Ça correspond à 60 millions de personnes. Quand ces 60 millions, même 65 maintenant, 65 millions, ça correspond, c'est un chiffre du HCR, le commissariat aux réfugiés. Ça inclut des personnes qui ont traversé une frontière, donc des réfugiés internationaux. Mais ça inclut également ce qu'on appelle les déplacés internes, donc des gens qui ont quitté leur région d'origine pour aller dans la région d'à côté. Alors, la grande différence entre les migrants économiques et les migrants forcés, c'est que quand on les regarde un peu, ce n'est pas du tout la même géographie. Ce n'est pas du tout les mêmes déplacements, les mêmes circulations. Globalement, les réfugiés, c'est une migration, un déplacement de courte distance. Les gens se déplacent dans la région d'à côté, voire dans le pays d'à côté. Pour deux raisons. D'abord parce que la plupart, ils ne veulent pas partir, ils ne sont pas préparés à leur voyage et beaucoup, beaucoup, beaucoup n'ont pas les moyens d'aller bien loin. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, ces gens ne veulent pas partir trop loin parce que dès qu'ils en auront la possibilité, ils veulent rentrer. Et Entre-temps, ils veulent garder un œil sur ce qui se passe, sur leurs biens, les biens qu'ils ont laissés derrière eux. Et donc, voilà, c'est généralement une migration de courte distance. Donc, quand on regarde les grands pays d'accueil de ces réfugiés, ce sont essentiellement des pays du Sud. C'est le Kenya, c'est le Pakistan, maintenant c'est la Turquie, c'est la Jordanie. Donc c'est une géographie qui est très différente de la géographie des migrations volontaires, où là, les grands pays de départ et d'accueil sont très différents. Les grands pays d'accueil, je commencerai par là, vous les connaissez, c'est essentiellement l'Europe, l'Amérique du Nord, mais aussi les pays du Golfe. Pays du Golfe qui sont une grande destination d'une main-d'œuvre peu qualifiée à destination des monarchies pétrolières. Vous savez que l'industrie du pétrole est très demandeuse de main-d'œuvre. Donc ça, cette géographie-là. Et puis les grands pays de départ, ce sont, là, je vais peut-être mettre un coin dans une idée reçue, ce ne sont pas les pays les plus pauvres du monde, loin de là. C'est l'Inde, la Chine, le Mexique, les Philippines, le Maroc. Ce sont des pays qui sont généralement des pays à revenus intermédiaires. C'est des pays qui sont en phase de développement. Et il y a la raison principale à ça, c'est qu'en fait, le grand facteur des migrations volontaires dans le monde, volontaires entre guillemets, parce que voilà, c'est plus ou moins en fonction des conditions et de l'environnement, mais c'est le développement. Le développement, c'est la grande raison des départs et de la mise en mouvement des populations dans le monde. Pourquoi le développement ? Le développement, quand on pense à développement, on pense à une dynamique qui est positive. C'est vrai, le développement produit de la richesse, produit de l'accès à l'école, produit de l'accès, donne des accès aux grands circuits de télécommunications, des circuits aériens, etc. Ça connecte au monde. Mais le développement, c'est aussi destructeur. C'est destructeur d'économies locales, destructeur de petites économies de plantations familiales. Par exemple, les Mexicains, quand ils ont vu arriver la libéralisation de l'agriculture, ça a mis en mouvement des millions et des millions de personnes qui se sont retrouvées par la suite aux États-Unis. Donc voilà, ces deux géographies migratoires, vous voyez, elles sont très différentes l'une de l'autre. Alors la migration, les migrations dans le monde, c'est vraiment une image c'est un reflet du monde tel qu'il est en ce moment, c'est avec cette mondialisation complètement paradoxale, avec d'une part des populations qui sont de plus en plus interconnectées les unes aux autres, mais en même temps des murs de plus en plus, il n'y a jamais eu autant de murs dans le monde, des circulations qui sont de plus en plus entravées pour certaines catégories de migrants. C'est un reflet du monde tel qu'il se présente aujourd'hui, un reflet de la globalisation, une globalisation qui a d'abord été pensée pour la libre circulation de l'argent, des biens et aussi de certaines catégories de personnes qu'on pense, qu'on voit comme du capital humain, une autre forme de capital, une autre forme de bénéfice économique, voilà, des migrants qualifiés. Et puis pour toutes les autres personnes, pour tous ceux qui sont indésirables, eh bien c'est plutôt des murs et des obstacles qui les attendent. D'où cette globalisation paradoxale où la circulation des hommes reste un impensé fondamental. Les grands accords qui régissent cette globalisation, je pense par exemple aux accords de l'ALENA en Amérique du Nord, ce qui régule la zone de libre-échange entre les pays de l'Amérique du Nord, mais aussi l'équivalent qu'on a ici sur la zone euro-méditerranéenne, c'est les accords de Barcelone qui ont été signés à la même date, milieu des années 90. Je pense également à des institutions internationales comme à l'OMC. Tous ces accords, toutes ces organisations, elles ont un mandat sur les flux financiers, sur les flux de biens, mais rien sur les migrations, sur les populations, sur la circulation humaine. Donc là, vous voyez bien que cette globalisation, l'homme reste le grand impensé de la globalisation. Et cet impensé, c'est ce qui nous revient aujourd'hui dans la figure. C'est cette incapacité à prendre en compte cette dimension humaine qui est l'une des grandes sources de cette faillite politique que l'on observe aujourd'hui. Alors, si on resserre un petit peu la focale sur l'Union européenne, il y a des grandes étapes. Hein. La situation actuelle, elle est le produit d'une évolution qui a démarré probablement, moi, la date que je retiens, c'est celle de 1974. 1974, suspension de l'immigration de travail dans les grands pays de destination européens, la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. L'Autriche également. 73-74, ces pays-là, conjointement, en parallèle, décident de suspendre l'immigration de travail. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une transformation totale de la structure des flux. Pas de diminution des flux. Les flux restent en volume aussi important. Mais par contre, c'est de moins en moins des hommes peu qualifiés qui viennent. Des hommes qualifiés circulants, c'est-à-dire avant cette fermeture, c'était des gens qui venaient, qui travaillaient un mois, six mois, un an, deux ans, et puis qui repartaient, de temps en temps qui revenaient, voilà, avec une circulation, une fluidité comme ça. Or, l'arrêt de la suspension de l'immigration de travail a mis fin à cette possibilité-là. Donc, les migrants qui sont installés en Europe font venir leur famille. Et donc là, on voit un autre type de flux qui arrive, celui du regroupement familial. Aujourd'hui, en Europe, et plus spécifiquement en France, le regroupement familial, c'est 50% des entrées. C'est sur à peu près 200-220 000 personnes qui rentrent en France tous les ans. C'est 50% des entrées. Donc vous voyez là, donc des flux plutôt d'installation. C'est dans les années 80, on voit l'émergence des deuxièmes générations. C'était un phénomène nouveau à l'époque. Hein. Vous voyez, l'un des symptômes, l'événement symptomatique de ça, c'était la marche des beurs en 84. Cette émergence de cette structuration de ces communautés immigrées, avec des États qui doivent réagir et qui mettent en place leur modèle d'intégration, l'Angleterre, le multiculturalisme, le modèle assimilationniste entre beaucoup, beaucoup de guillemets pour la France, et puis le modèle des Gastarbeiter en Allemagne. Donc ça, on est dans les années 80. L'année 90, elle s'ouvre avec, tout début des années 90, la mise en place de deux accords. Les accords de Schengen d'une part, les accords de Dublin d'autre part. Ces deux accords signent la mise en place des deux grands piliers de la politique européenne. Des migrations. Schengen, c'est ce qui régule les migrations économiques, les migrations volontaires, les migrations, je dirais, normales, entre guillemets, à l'intérieur, par la libre circulation, mais aussi avec l'extérieur de l'Union européenne, où ce sont les pays des bordures qui doivent prendre en charge l'entrée des personnes qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Ça, 90, mise en œuvre des accords de Schengen, 95 ensuite. Et puis Dublin. Dublin, c'est l'alter ego de Schengen, mais pour l'asile. Pour les accords de Dublin, pareil, à peu près dans la même période. Sur fond, à l'époque, ça c'est très important de s'en souvenir, sur fond d'une autre crise des réfugiés de l'époque, c'est-à-dire liée à la crise des Balkans. Donc à l'époque, entre à peu près 1,5 million de personnes en provenance des Balkans qui se dirigent également vers l'Allemagne essentiellement, la Suède, l'Autriche. Et sur ce fond de crise géopolitique, se met en place le système de Dublin. Qu'est-ce que c'est le Dublin ? Eh bien, Dublin, c'est l'une des dispositions clés de Dublin, c'est un migrant ou un demandeur d'asile qui fait son entrée sur le territoire européen doit faire sa demande d'asile dans le pays par lequel il est entré. Mais s'il choisit de continuer sa route, parce que s'il rentre sur le sol italien mais qu'il n'a pas envie de rester en Italie, qu'il préfère aller en Allemagne, il va continuer sa route, et ben les autorités françaises ou allemandes qui attrapent cette personne sont tout à fait habilitées à le ramener en Italie. Donc là encore, ce système-là, comme Schengen, transforme ces pays borduriers de l'Union européenne en gardes-frontières. Hein, ce sont ces pays-là qui sont des pays de transit à l'origine. Hein, la Grèce était le grand pays de transit de l'Europe, qui se transforme en garde-frontière. Donc un premier pan de cette structuration avec des pays noyaux, destination, et puis des pays périphériques. Voilà. Et c'est ce système-là qui a éclaté en 2015, puisque ces pays garde-frontières, hein, comme l'Italie et la Grèce, étaient aussi en plein marasme économique suite à la crise de 2009, et donc étaient totalement incapables de gérer l'afflux de ces personnes-là. totalement incapable de gérer les arrivants et totalement incapable de gérer les personnes qui étaient dublinées, c'est-à-dire qui étaient ramenées depuis les pays de destination. Et donc, on pense que à peu près la proportion des personnes qui sont attrapées en chemin, en route, que ce soit en France ou ailleurs, en Allemagne, etc., seulement 20% sont effectivement ramenés dans le pays d'entrée. Hein. Vous voyez la saturation totale de ce système-là, qui est au final coûteux et totalement inefficace. Voilà pour Donc je resserre un petit peu plus ma focale. J'arrive à la France. Alors la France, grand pays d'immigration, c'est l'un des plus vieux pays d'immigration au monde, puisque l'immigration en France a commencé au 19e siècle, à un moment où les grands pays d'émigration de cette période-là, c'était l'Allemagne, c'était l'Italie, c'était l'Angleterre, hein, avec ces mouvements migratoires massifs en direction essentiellement du Nouveau Monde à l'époque. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est toujours intéressant de faire des comparaisons historiques. Aujourd'hui, je vous disais 250 millions de personnes migrantes dans le monde, 3% de la population. À l'époque, c'était 12% de la population. Donc la planète migratoire, c'est celle du 19e siècle, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Vieux pays d'immigration, d'abord une immigration qui est transfrontalière, qui est essentiellement qui provient des pays comme l'Espagne, l'Italie ou la Belgique. Et puis petit à petit, un pays qui voit ses flux migratoires évoluer, essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, en provenance des colonies ou des anciennes colonies, avec le tarissement d'un côté de l'émigration transfrontalière qui a été une substitution de cette main-d'œuvre qui était essentiellement coloniale. Une main-d'œuvre qu'on allait chercher à l'époque, hein, avec soit parce que par la mise en place de zones d'une libre circulation totale, hein, entre l'Algérie et la France, par exemple, ou par le Maroc, on allait les chercher avec des bus, hein, à l'époque. Il y avait tout un système de recrutement avec des recruteurs qui allaient dans les villages pour aller chercher de la main-d'œuvre et les emmener dans les mines du Nord-Pas-de-Calais à cette époque-là. Non, voilà. Donc, arrive à 1974, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui marque à la fois cette transformation de la nature, de la qualité des flux, mais aussi un début de cette globalisation de l'émigration qui caractérise notre époque aussi, avec une diversification des pays de provenance. Et aujourd'hui, ces pays... cette immigration en provenance des colonies est certes toujours la principale, hein, le Maroc, l'Algérie, c'est les deux principaux pays de provenance, mais des zones comme l'Asie qui sont les plus fortes progressions de l'immigration de ces dernières années. Tiens, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose. Une petite parenthèse très intéressante sur cette migration globale. Je parlais de la France, mais fait penser en parlant de l'Asie. Que aussi une autre idée reçue, je vous parlais des premières idées reçues, les migrants viennent des pays pauvres, ce n'est pas vraiment le cas. La deuxième idée reçue, c'est que la migration sud-sud, ce qu'on appelle les migrations sud-sud, donc intra-africaines, intra-asiatiques par exemple, sont largement supérieures aux migrations sud-nord. Hein, ça aussi, c'est un phénomène qui marque aussi notre temps et cette globalisation de la planète migratoire avec des mouvements qui sont de plus en plus aléatoires, de plus en plus tous azimuts. Voilà, j'en étais où ? La France. La France, donc, qui intègre Schengen, et ensuite... À partir de 1997, une autre étape dans l'histoire de la politique migratoire française et européenne. 1997, ce sont les accords d'Amsterdam. Les accords d'Amsterdam, par les accords d'Amsterdam, la politique migratoire devient une prérogative de l'Union européenne. Et à partir de ce moment-là, donc, ils mettent en place une politique qui est essentiellement une politique sélective. C'est-à-dire qu'on va choisir les migrants, on va choisir en fonction essentiellement de leur capital humain, de leur diplôme. Et c'est à partir du début des années 2000, milieu des années 2000, c'est la grande période en France de ce qu'on appelle l'immigration choisie, avec un discours très mis en avant par Sarkozy. Mais c'était la grande époque où Nadine Morano nous expliquait que l'immigration était une chance pour la France. Vous voyez le contraste avec aujourd'hui. Donc une immigration qu'on essaye de sélectionner sur la base de la compétence, mais pour tous les autres, effectivement, une contraction et des mises en place de dispositifs sécuritaires pour limiter au maximum la venue des autres profils. Profils donc migration de travail, hein, essentiellement, et puis ensuite des réfugiés, également des demandeurs d'asile. L'une des façons dont on essaye de contrôler l'arrivée des demandeurs d'asile, c'est qu'on essaye de les empêcher d'accéder au territoire de l'Union européenne en les empêchant de quitter leur pays de départ. Et on le fait de façon assez simple. On taxe, on oblige les compagnies aériennes à vérifier la validité d'un titre de séjour à l'entrée de l'appareil. Donc c'est pas des douaniers qui le font, c'est la compagnie aérienne directement. Et si elle le fait pas, eh ben elle est pénalisée, elle a une amende de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et ce système-là, très simple, fait qu'un demandeur d'asile ne peut plus accéder à un territoire européen. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces personnes choisissent la route et choisissent la mer. Voilà. Au lieu de prendre l'avion, tout simplement. Ce qui coûte beaucoup plus cher, parce qu'il faut payer des passeurs, et alors que un billet entre Istanbul et l'Autriche ou l'Allemagne, c'est quelques centaines d'euros. Donc voilà, une politique européenne sélective avec mise en place de dispositifs sécuritaires tous azimuts. À l'extérieur, sur des frontières, au niveau des frontières, avec par exemple la création de l'agence Frontex. Agence Frontex, qui est une agence qui a été créée en 2004, qui a son siège en Pologne et qui est vraiment chargée de la mise en œuvre de la sécurité au niveau des frontières. Ça oui, mais aussi une politique d'externalisation, c'est-à-dire qu'on va demander aux pays frontaliers de l'Union européenne, qui ne sont pas dans l'Union européenne, tels que le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Turquie, etc., de participer à ces efforts pour contrôler ces flux migratoires. Et puis aussi, on va mettre la pression sur les pays de départ, hein, par le biais, en échange de d'aide au développement, etc. Alors évidemment, il y a quelques dictateurs qui en ont largement profité de cette manne. Vous connaissez le cas de Erdogan, mais vous avez eu un autre exemple qui était très fort pour ça. Ça a été Kadhafi. Kadhafi qui a largement négocié son retour sur la scène internationale après sa disgrâce, en échange de sa bonne volonté dans le contrôle des flux migratoires. C'était l'un des arguments clés pour ça. Et Kadhafi a été très fort pour le faire parce qu'effectivement, son pays est depuis 40 ans le grand pays d'immigration de l'Afrique du Nord. Parce que c'est un pays qui est très peu peuplé, mais qui a une industrie pétrolière qui est très demandeuse de main-d'œuvre. Et donc, il y avait traditionnellement, historiquement, énormément déjà de migrants en Libye. Migrants égyptiens et tunisiens depuis très longtemps. Et puis, de plus en plus, des migrants subsahariens du Mali, du Niger, etc. Donc, ils étaient là bien avant la crise qu'on connaît actuellement. Et évidemment, il avait beau jeu de dire, voyez, mes migrants, si vous me réintégrez sur la scène internationale, je ferai en sorte qu'ils ne passeront pas la Méditerranée. Évidemment, ils n'avaient aucune envie de passer la Méditerranée. Ils étaient là pour travailler dans le pétrole. Donc cette externalisation, elle se poursuit de proche en proche, comme ça, pays de transit, pays de départ. Mais il y a aussi ce que j'appellerais moi une internalisation aussi de la politique migratoire européenne et sécuritaire, au sens où on demande aussi à des catégories professionnelles, des fonctionnaires, des gens qui ne sont pas du tout là pour ça, de surveiller, de contrôler l'activité, la présence et l'activité des migrants sur sur le sol européen. Je pense aux enseignants avec la saisie d'enfants dans les classes qu'on va chercher parce que leurs parents sont sans papier. Je pense aux fonctionnaires dans les mairies qui accordent des titres de mariage. Voilà. Et on parlait tout à l'heure des juges administratifs qui ont vu leur charge de travail exploser suite au recours de demande d'asile. Voilà, toutes ces personnes qui sont en contact par un biais ou par un autre avec les migrants et à qui on demande et auprès de qui on maintient une atmosphère de suspicion et de demande de contrôle. Une internalisation de ce qui fait qu'il y a une course en avant depuis le début des années 2000, une course en avant à la sécurité qui est complètement délétère et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à des situations totalement ubuesques pour l'instant la seule réponse politique ça bouge un petit peu, on pourra en parler si vous voulez, mais ça jusqu'ici était beaucoup toujours plus de contrôle, toujours plus d'argent mis sur la table, toujours des barrières toujours plus hautes. Et le budget de Frontex, qui était de 19 millions en 2004, il est maintenant plus de 200 millions d'euros par an. Voilà, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle. 20 minutes ? Ben, je crois que... Voilà, donc voyez un peu la situation actuelle, c'est pour introduire petit à petit votre propos. Et on est arrivé, cette crise, cette situation actuelle, elle date donc de 2015, qui est liée à l'avancée des troupes de Daesh en Syrie, qui a mis en mouvement toute une série de populations et qui a déclenché un processus qui s'est accéléré à l'été 2015 et qui a connu un pic en septembre 2015. Vous avez tous en tête la photo du petit Aylan son cadavre sur les côtes grecques. Et cet épisode-là a vraiment révélé les contradictions internes de l'Union européenne, cette incapacité, ce rapport de force entre des pays du noyau de l'Europe et des pays périphériques, un rapport de force qui était déjà là, c'est juste un révélateur tout ça. La crise, pour moi, la crise, elle est d'abord une crise des fonctionnements des institutions européennes, c'est pas une crise des migrants. Ce rapport de force, il avait déjà été déclaré, par exemple, dès 2014 par le biais de l'opération Mare Nostrum. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette opération-là, mais c'était une opération au cours de laquelle l'Italie, Matteo Renzi, avait mis à disposition des bateaux de guerre notamment, pour aller chercher les migrants et pour les recueillir pendant leur traversée. Donc il a accueilli comme ça plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tout ça pour essayer d'éviter de limiter le nombre de morts, évidemment ça avait un objectif humanitaire, mais ça avait aussi un objectif politique. C'est l'idée derrière, c'était vraiment d'attirer l'attention des autorités européennes en disant voilà, je fais le travail, maintenant soutenez-moi, déclenchez cette clause de solidarité qui existe dans les accords de Dublin et selon laquelle, si en cas de difficulté, un pays peut demander aux autres États des soutiens financiers, des soutiens techniques pour mettre en place des dispositions qu'il faut, et personne n'a réagi. Les autres États n'ont pas voulu suivre et n'ont pas voulu accéder aux demandes de Matteo Renzi. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà ce rapport de force-là qui était en présence. Cette opération Mare Nostrum a été remplacée par l'opération Triton, qui a été prise en charge par Frontex et qui, là, était beaucoup plus limitée. Et le nombre de morts s'est à nouveau accéléré. On en est, à peu près, on ne sait pas, mais il y a au moins 30 000 morts depuis début de la décennie 2000. Et l'année 2016 a été la plus meurtrière jusqu'à ce jour. Donc c'est une politique qui est totalement inutile, qui est mortifère, et qui surtout génère toute une série d'effets délétères sur les opinions publiques elles-mêmes, avec évidemment des bénéfices politiques qui en sont tirés par certains bords politiques, évidemment, vous le savez. C'est une politique qui est mortifère, qui a des effets aussi délétères sur notre nos relations internationales, sur notre politique internationale, qui nous amène à traiter avec des gouvernements des dictatures. Là encore, l'Union européenne a accordé un prêt aux Érythréens, à l'État érythréen, pour essayer de conserver ces migrants, alors que c'est l'une des pires dictatures au monde. Ce qui a été fait avec Erdogan en Turquie, les Européens essayent de le faire avec les autorités libyennes. Évidemment, vous connaissez l'état de la Libye actuelle, un état complètement déliquescent. C'est complètement vain. Voilà, donc cette politique-là qui est une impasse peut-être être amené à bouger à court terme, puisque j'ai appris qu'il n'y a pas longtemps, l'idée d'abandonner cette clause d'obligation de déposer sa demande d'asile dans le pays d'entrée va être remplacée. Donc ce n'est pas le pays de première entrée qui va primer, c'est le pays de première demande. Donc ce qui est différent. C'est un progrès. C'est un progrès relatif, mais c'était un progrès. Voilà, évidemment, la solution à tout ça, ça serait évidemment de réinstaurer une ouverture des frontières progressive et calibrée qui permette de relancer une dynamique circulatoire et beaucoup plus saine que ce qui existe actuellement. Voilà, moi je crois que je vais arrêter là. On en parlera dans les questions si vous le souhaitez.
Juste, j'ai oublié de dire que par rapport à... Il y a aussi Yvon Placé de DNSI qui interviendra depuis la salle. Donc.
Voilà, donc après un panorama passionnant, hein, mais moi je vais ouvrir une petite porte d'entrée sur les activités de Médecins sans frontières autour de cette crise des migrants, qui est effectivement plus une crise de non-accueil que bon. En quelques mots, parce qu'on en a déjà parlé cet après-midi. Donc les activités en France, ça a surtout été à Calais pour Médecins sans frontières et Médecins du Monde. On en a déjà beaucoup parlé. Donc juste dire que au tout départ, en septembre-octobre 2015, MSF a ouvert un centre de soins de santé primaire sur la jungle, et assez rapidement, les pouvoirs publics avec l'ARS, ils ont délocalisé la passe de Calais à l'intérieur de la jungle, ce qui fait qu'il nous est apparu à nous qu'il fallait qu'on poursuive la seule activité que personne n'assurait, à savoir les soins psychologiques et psychiatriques. Donc il y avait des équipes de Médecins du Monde qui travaillaient avec ce qu'ils appelaient des maraudes psychosociales, et puis ils renvoyaient sur l'équipe de MSF plutôt les gens qui avaient des détresses vraiment installées. Et donc, rapidement, pendant à peu près un an, on a reçu 437 patients. En tout cas, on avait 437 dossiers qui est ouvert quand on les a analysés. Et c'est ces fameux 90 dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a essayé de protéger comme on pouvait au moment du démantèlement. Cette orientation des dits vulnérables, et effectivement ça pose la terminologie pose question, mais voilà. Et alors ces patients, ils avaient des troubles souvent très sévères, on avait une majorité de psychotraumatismes, on en a parlé, beaucoup de dépressions très graves, en particulier des Soudanais complètement arrêtés dans une espèce de gel de la pensée qui était souvent très impressionnant, et aussi évidemment des psychotiques, des troubles bipolaires. Et ce qu'on peut dire, on en parlait à table, c'est que en général, ces patients psychotiques, il nous est arrivé de les hospitaliser. C'est pas la question, et pas des mauvais traitements de l'hôpital de Calais, mais ça c'était catastrophique parce qu'ils étaient coupés de leur communauté, complètement isolés, personne ne parlait leur langue. Et donc très souvent, ça a été on récupérait des patients qui avaient plutôt tendance à s'aggraver du fait de l'incompréhension de leur situation. Et c'est l'occasion, on en a déjà parlé aussi, de dire que les interprètes, ils ont une place centrale dans toutes les activités conduites, hein, pas seulement médicales, de santé mentale, mais on en a parlé ce matin pour l'obstacle de la langue, c'est quand même quelque chose qui les isole, et quand ils vont mal, ça devient carrément catastrophique. Et donc, on parlait de ça, peut-être on en parlera dans le débat. Moi, il me semble que cette question de l'interprétariat, c'est vraiment un défi à relever pour les mois et années qui viennent. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis le démantèlement, malgré tout, il y a encore beaucoup de migrants qui retournent dans le Calaisien avec cette idée de rejoindre l'Angleterre. et que le dispositif de protection est de plus en plus impressionnant. Calais, ça ne ressemble plus à rien. C'est des autoroutes bordées de barbelés de partout. Et donc voilà. Et les conditions de vie pour les migrants sont bien plus terribles qu'avant. Les associations du Calaisien sont souvent empêchées de travailler correctement. En tout cas, c'est les retours qu'on a eus. Ça devient plus compliqué. Mais à Paris aussi. Donc quelques mots sur Paris. Donc comme Jean-Pierre l'a expliqué, en 2015, 2016, il y avait régulièrement des énormes campements, hein, à la Chapelle, au Jardin des Halles, comme tu disais, enfin les quartiers du nord de Paris, le 18e, le 19e arrondissement. Et ces campements, avec des tentes et tout ça, étaient régulièrement expulsés par la police, avec de temps en temps quand même des possibilités d'évacuation, mais le plus souvent, on n'était pas encore dans la logique des CAO, c'était plutôt d'éloigner les gens dans des hôtels en périphérie de la région parisienne, où on leur donnait des tickets restaurants pour 3 jours, et après tout le monde revenait à Paris, ou surtout à cette époque-là, partait à Calais, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'était quand même un des seuls endroits où chacun était assuré de trouver des membres de sa communauté, un peu d'accueil, un peu voilà. Et puis donc, en novembre 2016, comme l'expliquait Jean-Pierre, ils ont ouvert le centre de la Chapelle, la mairie de Paris, Anne Hidalgo, 400 places, immédiatement saturées, évidemment. Et donc, depuis lors, malgré le manque de places d'hébergement, ben, les campements sont immédiatement détruits par la police. Il n'y a plus de tentes dans Paris. Il y en a eu à un moment donné à Saint-Denis, mais il n'y a plus de tentes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus personne. Simplement, les conditions de vie sont encore plus précaires. Les gens dorment dans les portes cochères. Il y a beaucoup, effectivement, alors, la mairie parle d'interdire la distribution des repas chauds. Pour l'instant, c'est pas officiellement interdit parce que ça a quand même soulevé pas mal de protestations. Mais là, je discutais même ce matin avec des jeunes qui s'en occupent et qui disent que régulièrement, ils se prennent des contraventions sur les voitures qui stationnent, évidemment, pour distribuer la nourriture. Enfin, rien n'est facilité à Paris en ce moment pour voilà, et évidemment des migrants sont de plus en plus nombreux. Voilà, donc on en a parlé aussi, donc j'ai un peu l'impression de me répéter, mais il y a eu ce communiqué de presse sur les violences policières qui a paru en janvier, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, à cette période-là où ils empêchaient les tentes de s'installer, donc ils délogeaient vraiment brutalement les gens, arrachaient les couvertures, réveillaient les gamins à coups de pied. Moi ça je le voyais au quotidien parce que j'habite dans ce quartier-là. C'est vrai que c'était quand même assez terrible, d'autant qu'il faisait quand même très froid. Bon, depuis, on peut constater que les violences ont quand même diminué, mais le problème est en rien résolu. Lorsqu'ils arrivent à rentrer dans le centre de la Chapelle, il y a plusieurs jours d'attente, les demandeurs d'asile non dublinés, donc on vient de vous l'expliquer, donc je ne vais pas m'étendre, donc eux sont envoyés dans des CAO en province, où là, les démarches vont pouvoir être démarrées. Mais le problème, c'est tous les autres. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que ce statut de dubliné au moment de l'évacuation de Calais, donc pour les CAO des gens qui sortaient de Calais, il y a eu beaucoup de facilitations et le Dublin était facilement levé. Mais ce qui n'est plus le cas pour les primo-arrivants maintenant, voilà. Alors, j'espère que ce que vous nous annoncez va être appliqué, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Donc, pour l'instant, à la Chapelle, quand ils sont dublinés, ils sont envoyés dans des centres d'hébergement d'urgence anciennement pour les gens précaires SDF, qui sont devenus des centres d'hébergement pour les migrants, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de perspectives, autre qu'une expulsion. Jusqu'à maintenant, elles ne sont pas massives, les expulsions, mais en tout cas, ça prolonge une existence de non-droit sans perspective. Et donc, évidemment, voilà. Enfin, c'est-à-dire, on renvoie pas les gens vers l'Italie comme on serait censé le faire parce qu'ils sont tellement nombreux. En ce moment, c'est principalement des gens qui arrivent d'Italie, vu que le passage, on parlera tout à l'heure de la Grèce, quelques mots. Les gens arrivent quand même beaucoup plus difficilement à quitter la Grèce qu'avant l'accord UE-Turquie. Donc, majoritairement, en tout cas sur Paris, ce qu'on voit arriver, c'est des gens qui passent par l'Italie. Donc dubliné, parce qu'à 26 000 en tout cas, c'est au Tizer hein, qu'on prend les empreintes de force aux gens. Donc voilà. Et donc il y a cette masse énorme de personnes dublinées sans avenir. Donc j'espère qu'il y a des nouvelles directives qui permettront quand même de régler cette situation. Voilà. À part le centre de la Chapelle, ils ont ouvert aussi un centre pour les femmes seules et pour les familles. Voilà, donc ça, honnêtement, c'est vrai on n'en est pas encore au point de voir des familles avec enfants durablement dans la rue, mais les jeunes hommes célibataires, voilà. Alors, selon mes petites habitudes, je vais vous montrer J'espère que ça va marcher. Voilà, donc ça c'est la chapelle.
So we have made four walls and one thing up on the roof. And we have put in the waste cloths and blankets and something like that. We don't want to sleep, but we don't have any other place. If we are coming outside on those, police is disturbing. Police are spraying in the eyes and they are trying to disturb us. So where should we go? There is only place. There is too much cold.
العيش هنا الناس بتعاني يعني ما في ناس ما في أي حاجة يعني الناس ما عندها بطارية وما عندها أي حاجة يعني والبرد شديد يعني والله الأكل يعني الناس بتكون قاعدة كده يعني في ناس بيجيبوا أكل يعني بناكل مرة بيجيبوا يعني الناس قاعدة كده يعني المنظر صعب والبرد الشديد يعني
We are lying to our parents. Oh yes. I'm in a good situation, I'm wearing good, I'm eating good. Yeah, all right. But we are saying that our parents do not worry about us. I'm trying to get documents, right? I'm here for a long time and nowhere is somewhere like a positive response for documents, for saying, I want to go to school. We have positive expectations about our future and we will try our best to doing good things.
Voilà, donc le film il est assez parlant par lui-même. Donc vous avez vu donc une des petites activités que MSF a mis en place, c'est donc cette petite clinique mobile qui avait surtout pour but d'essayer de documenter un petit peu la situation. Et puis en général, on arrive à orienter les patients qui ont des pathologies médicales importantes vers les PASS des hôpitaux parisiens. Voilà, donc la majorité des réfugiés en ce moment sont soudanais, érythréens et afghans. Et en lien avec l'association Utopia, qui est donc une association à l'origine en Bretagne, mais qui est très active maintenant en région parisienne, on a pu organiser des mises à l'abri à l'hôtel, principalement pour les mineurs. Et donc je vais faire un petit point quand même sur cette situation des mineurs, qui est très préoccupante. Donc on les appelle les migeurs, ça veut juste dire qu'ils sont ni mineurs ni majeurs, et ça illustre parfaitement la politique et la volonté aussi de non-accueil et de mise en invisibilité de ces migrants. La reconnaissance de leur minorité devrait leur donner droit à une protection par l'ASE, mais les places sont saturées. Et donc, du coup, le DEMI qui s'occupe, et c'est la Croix-Rouge qui travaille dans le DEMI, conteste quasiment systématiquement maintenant les déclarations de minorité, quelquefois contre la plus basique évidence. Donc, c'est une évolution très expéditive au faciès. Et donc ce refus renvoie les jeunes vers la rue puisqu'ils n'ont pas droit à aller dans le centre d'hébergement pour les adultes. Et donc ils se retrouvent pendant plusieurs mois un peu dans l'attente, quoi. Et donc ils ont évidemment la possibilité de demander un recours, mais ça va durer là encore plusieurs semaines, voire mois. Après, le recours aboutit chez un juge, et là, à ce moment-là, le juge, alors là, c'est un peu au hasard, mais très souvent, le juge va demander des preuves. Alors, paradoxalement, on peut ouvrir un dossier de recours avec une photocopie de papier d'identité que certains ont, mais par contre, le juge ne se contentera pas de ça, il va demander les vrais papiers. Donc, c'est vous dire comment beaucoup de gamins se retrouvent pris comme ça, dans une attente, recontacter la famille, enfin voilà. Et très souvent, c'est quasiment insoluble. Et puis sinon, il y a la demande de l'âge osseux. Alors là aussi, les services qui s'en occupent sont saturés, donc c'est plusieurs mois d'attente pour avoir une radio qui, en plus, médicalement, n'a aucune valeur. Voilà, c'est pas, on peut pas considérer. Il y a une marge d'incertitude de 18 mois sur des gamins de cette classe d'âge-là. Vous imaginez bien que la preuve, elle est plus que contestable. Voilà, mais le problème, c'est que certains d'entre eux, bien sûr, ont de la famille ailleurs, en Angleterre en particulier, et personne ne les accompagne. Enfin, il n'y a rien qui est organisé pour les protéger et pour faire valoir leur droit à la réunification familiale. Voilà, donc c'est vrai que MSF, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que c'est un projet qui est en cours d'élaboration et qui va être présenté dans très peu de temps à MSF, mais en tout cas, l'idée, c'est de faire un programme spécifique pour cette catégorie de population dont on considère qu'ils sont quand même très vulnérables, ne serait-ce que parce que c'est les faire basculer aux mains des passeurs, aux mains des trafics divers et variés. Donc voilà, ça c'est le projet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, un élément important quand même qu'on a déjà souligné tout à l'heure et dont je crois Martine va nous parler plus en détail, c'est l'implication grandissante des volontaires, des citoyens français qui sont individuellement révoltés par la situation et qui se mobilisent beaucoup quand même à Paris. Ils apportent des tentes, des couvertures, ils organisent des repas, donnent des cours de français, beaucoup, quand c'est possible. C'est vrai que quand ils sont dans la rue comme ça, ça devient plus compliqué. Et voilà. Et par exemple, à Paris, le dernier grand campement, il était avenue de Flandre, plusieurs centaines de tentes. Et il y avait un groupe d'internes en médecine qui s'appelait les médecins migrateurs et qui venaient travailler toutes les fins d'après-midi avec une toute petite tente en tournant entre eux. Ils s'étaient organisés, tout un groupe. Voilà. Ils faisaient surtout un vrai travail de présence, quoi. C'est vrai que... voilà, donc c'est vrai que ça, c'est ces associations comme Utopia et plein d'autres qui mobilisent plein de volontaires. Sans eux, MSF ne pourrait pas imaginer en France conduire des programmes adaptés. Et c'est vrai que pour c'est une spécificité du travail en France. À Calais, c'était beaucoup les associations du Calaisien, mais aussi beaucoup les activistes anglais. Et voilà, et ça nous oblige à MSF à beaucoup plus d'inventivité. Il faut apprendre à travailler tous ensemble. Et je pense que ça, c'est un défi qui est à relever pour nous. Voilà. Et c'est vrai que par les temps qui courent, avec des voix très sombres qui nous annoncent la disparition de l'AME, qui nous annoncent évidemment voir l'expulsion des étrangers, cette mobilisation, elle est réconfortante, elle est précieuse, et il faut que ça continue. Je vais peut-être vous dire deux petits mots sur la Grèce quand même. Parce qu'on en a parlé, mais depuis la fermeture de la route des Balkans, qui a été officialisée par l'accord UE-Turquie le 18 mars 2016, donc ça fait tout juste un an, qui a été renforcée depuis par plein d'accords et de voilà, la situation des réfugiés en Grèce, elle devient particulièrement difficile et surtout dans les îles. Alors moi, je connais plus Samos. Il y a d'autres sections MSF. Hein, donc les sections de MSF Belgique travaillent à Chios et à Lesbos, et nous, les Français, on travaille à Samos. Et c'est vrai que ça devient les conditions de vie deviennent de plus en plus terribles dans ces îles, parce que les gens, ils sont prisonniers, c'est-à-dire qu'ils sont pas enfermés, mais quand on est dans une toute petite île et qu'on peut pas en partir, il y a quand même beaucoup de désespérance qui grandit. Faut savoir, mais tu en as parlé, hein, que la Turquie qui accueille déjà presque 3 millions de réfugiés, en majorité syriens, je crois qu'il y a 350 000 qui sont d'autres origines en Turquie, a fermé depuis 2 ans sa frontière avec la Syrie. Je veux dire qu'on voit aussi les contre-coups de cette fermeture de l'Europe conduit, bon, il y a d'autres raisons, mais conduit aussi la Turquie à fermer ses frontières avec la Syrie, ce qui est quand même assez dramatique. Et voilà, et donc, oui, le fameux accord, il y a eu seulement 3565 personnes qui ont été relocalisées en Europe depuis la Turquie, alors que c'était quand même prévu que ça soit beaucoup plus que ça. Alors, les 5 principales îles proches de la Turquie abritent autour de 15 000 réfugiés encore, et ces îles grecques, qui étaient auparavant des zones de transit, sont devenues des sortes de prisons à ciel ouvert. Et il est question, alors ça j'espère, enfin voilà, c'est beaucoup toujours des rumeurs, mais il est question qu'à Samos, entre autres, ils comptent réouvrir un centre de détention fermé pour sélectionner les nationalités les moins désirables, à savoir les Nord-Africains, les Pakistanais, enfin voilà, il y a toute une liste. Et donc, il est prévu de remettre ces gens-là dès leur arrivée, ou ceux qui sont actuellement encore coincés à Samos, de les enfermer, eux, dans des centres de détention, en pensant, je pense, que les expulsions seront facilitées. Moi, je me souviens avoir discuté avec un psychiatre de Samos qui me racontait, parce qu'il y a une longue histoire hein, de migration et d'arrivée sur Samos, et il me racontait qu'il y a quelques années, il y avait déjà eu des tentatives de centres de détention et que c'était épouvantable. Il n'y avait pas encore tous les soutiens ONG divers et variés, tous les volontaires. Il était un peu tout seul et il était appelé régulièrement par des tentatives de suicide, des révoltes, des gamins qui s'automutilaient. Donc on imagine qu'on va aller tout droit vers cette perspective-là. Ce qui est quand même pas encore le. Il y a eu des révoltes hein, dans le centre de le hotspot comme ils disent de Samos, mais et du coup ils l'ont ouvert. Mais là, on risque de repartir dans des choses avec beaucoup plus de violence et des choses beaucoup plus délétères pour les migrants. Voilà. Alors, je peux vous montrer un petit film qui est, je trouve, très impressionnant. Comment ça marche ça? Samos.
Samos is a kilometer and a half from the coast of Turkey. It's a stunning island. It's a really peaceful island, tucked into the side of a mountain. You've got spot that was initially constructed for about 600 people, like there's anywhere between about 1,500 to 2,000 in the last few months. And it's like it looks when you approach it, like it looks like it's a detention center. You know, it's got fencing all around, it's got barbed wire on the top. So I think even from people's first impression when they arrive, and from many people that I work with, people are overwhelmed by what they step into. They anticipate freedom. They anticipate liberty. And when you arrive into what looks like a prison, people, it's quite shocking.
من یک چادر یک نفره دارم. در چادرم 3-4 تا کوله پشتی هست که لباس هایم هست و یک دنیا خاطره و آرزو که در چادرم نمی گنجه اما در چادر جاش دارم. یک اجاق برای پختن و گرم شدن، چند تکه نان و یک عروسک که من رو هر شب به بچه هام پیوند.
ايش مسامير على المخيم يرموه يعني عمره 50 سنة ولا حالي ما إلي حدا ما إلي معين وعدنا بجزيرة بس هي مغارب بدك شوفينا لا هون لا هون ما حدا عم بيساعدنا صار لي 4 أشهر فجيت بعشرة عشرة ولا شيء لا حدا إلا بعد ما لا يجي ورائك لا تيجي ورائك هلا عشان عندي أنا التنين عشان يتغير البيت تبعي ما بعرف شو بيصير يعني بس بطلع هيك على الناس يعني بقول لوين لو انت ما ضل عايشين هون شو اللي بدي يصير شو مصيرنا وين بدنا نسكن بدي اوصل عند اولادي ولا بدي اموت هون ولا شو اللي بدي يصير معي يعني لاي يعني لامتى انا بالحياة اللي بدل يعني شو مصيري يعني
I see a lot of people who are very very depressed and depressed because of the state of limbo that their life was in like that's a word really quickly I was trying to get a translation for, you know, for, because people would describe what seemed like their life just hanging still. still. So people don't know when they're going to leave. They don't know, really understand the process for being able to leave. And really, fundamentally, they've got nothing to do with their time. So people are just waiting around with, the only structure is around the time that meals are given out. Other than that, people have nothing to do. Securing your like stable living environment, that takes a lot of people's time and energy. I think people are kind of in a bit of a kind of loop.
مجرد بني آدم مثل البطارية حدا مشاغل بطارية وما شبه ولا أنا ما في لا إحساس ولا مشاعر ولا شيء تعبانة على الآخر تعبانة يعني ما شو الواحد يعني بقي ما بقي من العمر قد ما مضى بدي أعيش بقية حياتي عندي أولادي صار لي سنتين ما شايف أولادي ما بقدر أوصف لك شو يعني ما لأني أنا تعبان نفسيا ما عم بقدر أعرف شو بدي تعبان نفسيا نهائيا تعبان
donc bah, juste pour terminer donc sur le continent aussi, hein, il y a environ 60 000 personnes, eux aussi bloquées depuis plusieurs mois en Grèce. L'assignation à des conditions de vie précaires dans des camps est délétère pour tous les réfugiés du monde. Mais dans les camps de Grèce, c'est une population on the move, en transit, qui se retrouve piégée par les directives européennes. Destruction de leurs repères d'existence déjà très fragiles, écroulement des espoirs et du rêve d'Europe, non-sens des perspectives d'asile, dureté de la vie au quotidien et surtout déni de ce qu'ils ont vécu. Peut-on s'étonner de leur désespérance ? Donc voilà, donc juste pour conclure. Oui, comme vous l'avez vu dans les petits reportages, mais c'est la réalité, c'est vrai que les soins de santé mentale sont au centre des programmes de MSF pour les migrants, parce qu'en général, leur état de santé n'est pas trop mauvais pour la plupart, et on peut s'appuyer effectivement sur le système de soins grec, déjà un peu sinistré, voilà, mais malgré tout, et donc on a surtout des programmes avec des psychologues, des psychiatres au début, et de plus en plus quand même, on arrive à s'appuyer sur des psychiatres grecs, des psychologues grecs, qu'on intègre dans les équipes pour travailler avec cette population. Mais voilà, les mots qui soulagent sont difficiles à trouver face à ces personnes en attente, comme suspendues, je trouve que cette femme l'exprime très bien, sans information, sans droit, autre que l'accès à une survie minimale. Donc les responsables de l'Union européenne se disent satisfaits, hein, l'anniversaire de l'accord, là, satisfaits de la réussite de cet accord, qui a été prolongé depuis mars 2016 avec d'autres directives, mais le seul indicateur de leur satisfaction, c'est une chute du nombre des arrivées en Grèce, mais malgré tout, durablement bloquée, 75 000 personnes. Un récent rapport de MSF Belgique sur la situation des réfugiés souligne « La réalité, c'est que ces personnes sont traitées comme des marchandises, entreposées. La protection dont ils ont besoin leur est refusée, avec des conséquences délétères sur leur santé physique et psychique. Ce deal Union européenne-Turquie n'est pas une success story, mais bien plutôt une horror story. »
Merci. On va faire un retour en France avec Martine qui va nous parler de la situation de Calais et ensuite on reviendra jusqu'ici à Poitiers. Merci.
Donc, moi je suis Martine De Vries, j'ai été médecin généraliste, je suis maintenant à la retraite et donc j'ai fait toute ma carrière de médecin généraliste à Calais. J'ai travaillé à Sangatte de 2000 à 2002, je consultais, et puis ensuite j'ai contribué à l'arrivée de la mission du littoral 59-62 de Médecins du Monde, et dont j'étais responsable. Et ensuite, je travaille maintenant à la plateforme Service Je voulais donc là ce soir parler de deux choses un peu différentes. D'une part, la situation à Calais en ce moment, parce que j'imagine, parce que c'est pas vraiment ce qu'on perçoit dans les médias habituels. Et puis, vous parlez du travail de notre association. Donc, la situation actuelle à Calais, c'est donc ce que vous avez pu lire ou voir, c'est que effectivement. Les migrants reviennent, c'est les titres des journaux. Donc, ce sont des exilés qui soit reviennent, soit arrivent. Reviennent des CAO où ils ont été conduits plus ou moins, enfin, bien orientés, on va dire, lors du démantèlement de la jungle. Ils reviennent pourquoi ? Parce que c'est pas satisfaisant pour eux, dans la mesure, ceux qui reviennent, c'était parce que c'était pas satisfaisant pour eux, parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement dans certains CAO, parce qu'ils ne savent rien sur le déroulement de la procédure, donc, et parce qu'il y avait certains qui ont été embarqués dans les CAO et qui ne voulaient pas du tout demander l'asile en France. Et aussi, alors en principe, ils ne reviennent pas parce qu'ils sont dublinés, puisque en principe, et c'est assez bien tenu, le dublinage est levé quand les gens viennent de Calais. Alors, il y a des. Mais beaucoup de gens ont été conduits en CAO sans savoir que c'était pour la demande d'asile en France. Il y a des mineurs qui ont été conduits en CAO mineur. On leur a dit on va te transférer en Angleterre. Ce qui a été faux pour les trois quarts d'entre eux. Il y a des gens qui au moment du démantèlement, ils partaient dans les cars parce qu'ils avaient deux régions à choisir, ils partaient en Bretagne et ils croyaient qu'ils partaient en Grande-Bretagne. Donc il y a quand même eu des tromperies délibérées ou pas, mais enfin ça arrangeait bien tout le monde. Il y a des gens qui arrivent, qui sont des primo-arrivants, parce que c'est pas parce que la jungle de Calais a été démantelée qu'en Afghanistan ou en Érythrée, on le sait, et on continue de venir à Calais. Et donc, actuellement, il y a environ 400 à 500 personnes sur le Calaisis. Les jungles dans le nord de la France, c'est pas seulement Calais. Donc, vous savez qu'il y a un camp à Grande-Synthe. Actuellement, il y a 1500 personnes. Et il y a des petits camps qui sont situés sur les trajets de l'autoroute Paris-Calais ou Lille-Calais, parce que ce sont il y a des parkings sur lesquels il y a des camions qui peuvent embarquer, en le sachant ou non, des gens qui toquent le passage. Donc, à Calais en ce moment, pas loin de 500 personnes, surtout des hommes, beaucoup de mineurs. Beaucoup de mineurs parce qu'il y a une présence policière extrêmement importante et les majeurs se font embarquer en centre de rétention et ils y restent pour beaucoup ou transférés ailleurs. Alors que les mineurs, on n'a pas le droit de mettre les mineurs en centre de rétention. Donc finalement, ça concentre ce sont essentiels. Ce sont essentiellement en ce moment des gens qui viennent du Soudan, de l'Érythrée, qui arrivent, vraisemblablement parce que la filière terrestre par la Bulgarie, elle est fermée en ce moment. À Grande-Synthe, 1500 personnes, c'est essentiellement des Kurdes. Et le camp de Grande-Synthe en ce moment, donc 1500, il est hyper saturé. Il a obtenu une prolongation, comme vous avez vu. La situation à la fois des conditions de vie matérielles et des conditions de sécurité sont terribles. À Calais, donc les 500 personnes qui vivent là, il n'y a pas de tente évidemment, les gens vivent même pas dans des portes cochères ou sous des ponts, parce que quand ils dorment là, je ne sais pas où ils vivent, quand ils dorment quelque part, ils sont obligés de changer d'endroit trois fois dans la nuit, tellement ils sont délogés par les flics. Les associations donc ont gardé du service et ont repris du service sous forme de maraudes essentiellement. Il y a un accueil de jour, du Secours catholique qui accueille une centaine de personnes par jour, un accueil de jour des no-borders qui accueille environ une trentaine de personnes, et puis les autres, on ne sait pas où du tout où ils peuvent se reposer, ils ne peuvent pas dormir la nuit, ils ne peuvent pas dormir le jour. Donc il y a des distributions de nourriture, de vêtements qui sont harcelés par la police, qui ont été interdites par des arrêtés municipaux, et juste hier on a reçu, les associations ont assigné la ville en référé, et donc ça n'est plus interdit de distribuer la nourriture. Et donc on en est à se réjouir très très fort d'avoir le droit de distribuer de la nourriture dans le vent et sous la pluie, et franchement on est très contents, enfin, voilà, mais on est dans une situation où, enfin, on se demande comment, chaque fois c'est pire, et on se demande comment c'est possible. Alors, tous ces gens sont des migrants en transit, qui n'ont pas l'intention de demander l'asile. Il y a des gens qui demandent l'asile à Calais, ou qui l'ont demandé, et l'ont obtenu ou pas. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est des gens souvent qui ont été bloqués à Calais pour des raisons diverses, notamment d'accidents, de maladies, et qui sont donc réfugiés ou demandeurs d'asile, qui sont accompagnés par les différentes associations et par pas mal de bénévoles individuels. Ce qui est visible pour les habitants de Calais, c'est une ville qui est défigurée, donc Frédéric l'a dit, qui est défigurée par la construction des murs, par la destruction de zones qui étaient des zones paysagées en bordure de Calais, et où tout a été détruit au bulldozer par les pouvoirs publics. Les mises sous grillage de places, de la moindre place, le moindre je crois qu'en architecture ça s'appelle les dents creuses d'une ville, tout est grillagé pour pas laisser de place Et puis la ville sillonnée de camions de police, de gendarmes et de CRS. Et mais la vie, elle est tranquille, hein. On n'est pas dérangé, hein. Et puis on voit si vous venez en train à Calais, en haut des escaliers de la gare, ben, vous êtes accueilli par les CRS. Mais vous, ils ne vous arrêteront pas, mais le moindre visage basané, il est arrêté dans ses papiers. Donc voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça, on va avoir un parc d'attraction et rue. Je voulais vous parler du travail. Donc, je trouve que dans les différentes interventions, cet après-midi et ce soir, et puis celle de Frédéric ce soir du moins, on est un peu abattu par l'impuissance. En tout cas, c'est un risque. Et c'est pas mal qu'on ressente ça, parce que c'est exactement ce qui est ressenti par les bénévoles et les militants qui accompagnent les migrants. Parce qu'on a vraiment en face les pouvoirs publics qui ont le pouvoir. Enfin, je pense que c'est nécessaire d'avoir un pouvoir d'État, personnellement, mais de le voir, d'y être confronté et de trouver qu'il est... Il est employé d'une manière incohérente et injuste. C'est vraiment éprouvant pour les bénévoles. C'est éprouvant. Donc, la ville à Calais, on ne le vit pas depuis des centaines d'années, mais depuis à peu près 97-98. Et à grande échelle, effectivement, depuis 2008, sans doute. Et Donc il y a beaucoup de bénévoles. Je ne parle pas de l'afflux de bénévoles depuis 2015, la photo du petit Elan, mais avant, les bénévoles étaient des bénévoles locaux, essentiellement. Ils le sont encore, mais il y en a qui sont venus plus loin. Et ce que moi j'ai pu constater au cours de ces années, c'est vraiment j'ai appelé ça la casse du bénévole. C'est-à-dire que les gens sont sensibles, généreux, bouleversés, et ils se donnent là-dedans. Tête baissée, sans forcément beaucoup de réflexion, sans forcément beaucoup de formation. Ils n'ont pas de formation de soignant en particulier. Et ils se prennent les violences que vivent leurs protégés et l'injustice et l'incohérence, l'absurdité des situations. Et donc vraiment, les gens font, pour la plupart, font un temps, quelques années, et puis poc, on ne les voit plus. Et je trouve ça normal, quand on est bénévole, ce n'est pas forcément à vie, mais ils s'en vont cassés, amers, et... C'est vraiment un truc que j'ai observé et que je trouve c'est pas juste, quoi, parce que voilà des gens généreux et au lieu de partir en se disant j'ai fait bien pendant quelques temps et maintenant je m'en vais tranquille, ils s'en vont déçus, réduits à l'impuissance. Et donc cette violence accompagner la violence, le dénuement, ça retentit chez les gens et ça donne aussi une violence dans la vie de ces gens et ça s'exprime entre bénévoles et ça s'exprime même contre les migrants, c'est-à-dire que ça donne une incohérence, on finit par être fâché si les gens ne font pas la file bien et s'ils ne font pas comme on a dit et s'ils n'aiment pas la soupe et si, pour des choses ridicules, enfin je veux dire, c'est pas... Et les désaccords parfois violents entre bénévoles de différentes associations, c'est pas sur des positions politiques, c'est sur j'ai fait de la meilleure soupe. C'est vraiment, c'est pathétique, quoi. Enfin, et donc, on est un certain nombre à s'en être aperçu au fil du temps, et ça nous semblait vraiment nécessaire de mettre les gens en lien. Donc je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs lieux de vie des exilés dans la région, donc les différentes associations de la région, mais aussi dans une ville comme Calais, il y a beaucoup d'associations, dans une ville comme Grande-Synthe aussi. Et donc c'était mettre du lien entre les différentes associations, c'était les coordonner les actions, parce que même s'il n'y a pas forcément compétition ou conflit, c'est idiot de faire le même boulot côte à côte ou même de faire des boulots différents, l'un sur le plan juridique, l'autre sur le plan humanitaire, mais de ne pas le faire en cohérence. Il y avait vraiment un travail de lien à faire. Il y avait un travail de formation des bénévoles et de soutien. Comme on fait de la formation pour des soignants ou du soutien pour les soignants quand on sent qu'ils sont en souffrance. Et moi, je crois qu'on peut vraiment parler de... Alors, on n'a pas inventé de mots, on parle de souffrance au travail pour les salariés, mais je trouve qu'on peut vraiment parler de souffrance au travail pour les bénévoles. Bref, en 2011, on a créé cette association, donc Plateforme Service aux Migrants, avec cet objectif-là. Et donc, l'association a maintenant 25 associations membres, donc de la région, avec une extension à Cherbourg, à Dieppe, et le comité des exilés du 10e, je ne sais pas s'il existe encore. On essaye de remplir de travailler aux objectifs dont je vous ai parlé. Une des choses aussi qui nous met dans la révolte et dans l'impuissance, c'est la manière dont le droit n'est pas appliqué. Alors là, je ne parle même pas du droit d'asile dont on a quand même un peu parlé jusqu'à présent, mais dont le droit est appliqué ou pas. Enfin, je ne sais plus qui parlait des contraventions sur les voitures des bénévoles lorsqu'ils allaient distribuer. Bon, ça, c'est monnaie courante. Les inculpations pour outrage à agents, c'est vraiment provoqué et fabriqué. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont difficiles à vivre. Et donc, où l'action de l'association, on a mis le paquet, on a trois salariés, dont une juriste, qui a pu créer un réseau d'avocats il y avait des avocats militants, mais pas très peu d'eux. Mais il y a des avocats sensibilisés qui avaient besoin de connaître la situation de vie des exilés pour être en mesure de se lancer dans ces causes-là. On a aussi une salariée. Donc, une des préoccupations des différentes associations, c'est de sensibiliser la population, c'est de contrer les préjugés. Et donc, on a une salariée qui soutient les associations dans ce travail-là, de différentes manières. Et puis, on a un coordinateur. Donc, l'association ne prend jamais de position, ne signe jamais de communiqué de presse. Mais par contre, elle aide les associations à fabriquer les communiqués de presse. Et après, chacun les signe. Les associations sont tellement différentes dans leur fonction, dans leur idéologie, dans les raisons qui font venir les gens, que c'est pas possible d'espérer avoir une position commune à chaque fois. Des fois, oui, mais à chaque fois, c'est difficile. Il y a des associations qui ont une position très nettement politique, et d'autres qui disent surtout pas de politique. Il y a encore des gens qui disent ça, alors qu'ils travaillent au quotidien mais ils le disent de moins en moins quand même. Donc finalement, on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir des positions radicales, mais je trouve que dans l'ensemble, on a un peu l'impression quand même que les gens bougent un petit peu. Une des manières aussi de lutter contre le sentiment d'impuissance et de désespoir, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire que les éléments que nous a donné Thomas Lacroix tout à l'heure, des éléments de compréhension du phénomène migratoire, mais aussi de l'habitat ou des intérêts politiques des uns ou des autres. Je veux dire, donc ça fait partie de la formation, ça fait partie des choses auxquelles les gens n'ont pas d'une manière naturelle accès, parce qu'ils s'y regardent TF1 ou qu'ils lisent dans le littoral, c'est pas là qu'ils vont comprendre tellement de choses. Donc nous, on propose des formations, on propose des conférences, on a une newsletter, on se rend utile. Notre association, elle est financée par des subventions d'organismes privés, donc le CCFD, Emmaüs France, la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France pour cette année. Et on a un petit peu de mal, alors pas ici, je suis sûre que ici vous avez tout bien compris ce qu'on faisait. Mais quand on reçoit les journalistes les gens ne comprennent pas bien ce qu'on fait et ils n'apprécient pas forcément ce qu'on fait, parce que ce qui est important, c'est que, ou les donateurs, je veux dire, les gens, ils veulent donner quelque chose, je vais être méchante, ils veulent pleurer un petit coup, et ils veulent être actifs, et ça je comprends bien, et ils ne comprennent pas bien que pour ceux qui sont là en dehors d'une mission de 15 jours, enfin, qui sont là à l'année, ils ont besoin de soutien, quoi. Voilà. Donc, on a aussi un journal, on fabrique aussi un journal en résidence sur des lieux de vie avec des exilés, qui s'appelle le Journal des Jeunes. J'en ai mis deux sur le stand. On a un forum. Voilà. C'est ça notre action. Voilà.
Oui. Bon, alors, Poitiers n'est pas calé. Hein. Donc, il est évident que ce que je vais raconter est beaucoup moins difficile à comprendre. Ou plutôt plus difficile à comprendre, parce que moi, je voudrais parler de la violence administrative. À Poitiers, comme dans toutes les préfectures, on a les problèmes de l'asile, mais si vous voulez, à Poitiers, Poitiers étant a gardé le fait qu'elle est une capitale régionale, donc les demandes d'asile se font à Poitiers pour les quatre départements. Mais aujourd'hui, il y a une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile qui est financée par l'État, qui est à côté de la gare, qui est prise en, enfin, c'est une association Coalia qui s'en occupe. Et donc, nous, on voit pas les demandeurs d'asile directement. Par contre, comme 70% d'entre eux ne vont pas avoir, même peut-être plus, de résultats à l'OFPRA, pour un recours à la CNDA, c'est pas Coalia qui s'en occupe. Donc, on peut les retrouver dans les services d'accès au droit. Alors à Poitiers, j'en connais deux où je travaille. Une qui est faite par le Toit du Monde, qui est une association très connue à Poitiers, qui s'occupe de, qui a un service d'accès au droit. Et puis il y a la CIMAD récemment, dont c'est parti, qui a ouvert une permanence le jeudi soir. Donc moi je voulais parler de la violence administrative quotidienne, non pas par rapport aux demandeurs d'asile comme on en a parlé toute la soirée, puisque nous on voit surtout les migrants qui sont confrontés à l'impossibilité soit d'avoir un titre de séjour, parce que comme bon, la plupart bien sûr sont des déboutés de droit d'asile, ils sont restés, ils ont eu des enfants, et donc ils essayent progressivement d'être régularisés au fur et à mesure qu'il y a des lois qui leur permettent. La dernière grande ouverture, ça a été la circulaire Valls en novembre 2012, où là, on arrivait à faire régulariser des gens qui étaient là depuis plus de 5 ans, à condition qu'ils aient un enfant au moins scolarisé depuis plus de 3 ans. Donc, ça fonctionne que comme ça en permanence. Donc, et ce qui est très difficile quand on reçoit quotidiennement des migrants qui sont pas dans la difficulté des gens de Calais, mais qui sont là en situation... Alors comment les appeler ? Moi, le plus simple, c'est de les appeler. C'est des étrangers qui sont en situation irrégulière ou qui étaient en situation régulière et qui ont perdu leur titre de séjour pour des raisons diverses. Donc c'est toute cette population qu'on voit en permanence. Et cette population, elle est confrontée d'abord à une sorte d'incompréhension de la loi. C'est-à-dire que, comme la loi, elle change en permanence, ils sont tout le temps en train de se demander si le titre de séjour qu'ils avaient, ils vont pouvoir le renouveler, ou s'il y a une nouvelle loi qui leur permet enfin d'avoir un titre de séjour alors qu'ils ne l'ont pas. Et ce qui est certain, c'est que cette espèce d'inquiétude, puisqu'on parle quand même de la souffrance des migrants, elle est très importante chez les migrants. C'est-à-dire que j'ai vu hier, est paru un rapport qui a été fait à Toulouse par des observateurs, et il y avait des membres du CNRS qui étaient là, qui ont fait une étude systématique sur la manière dont la préfecture de Toulouse, enfin le Haute-Garonne, traitait les migrants. Et on voit que la principale inquiétude, c'est de ne pas pouvoir arriver à avoir accès à la préfecture. Alors, c'est la première chose dont je voudrais dire très rapidement. En dehors de ces problèmes de loi, du CZA qui change en permanence, mais toujours dans un sens de plus en plus hostile aux migrants. C'est-à-dire toutes les réformes du CZA, le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, toutes les réformes ont toujours été pour aller un peu plus, rendre plus difficile l'accès au droit. Et donc, ce dont je voulais parler, c'est par exemple, dans une préfecture comme la préfecture de Poitiers, c'est comment arriver à avoir accès à la préfecture. Pendant très longtemps, il fallait faire la queue. Donc, c'était tous les matins, on faisait la queue. Comme par exemple, ça se passe dans beaucoup dans les banlieues parisiennes, à Bobigny, etc., il y a des queues alors qu'ils commencent à 2h du matin. Donc, comme il y avait ce problème à Poitiers, la préfecture a décidé de faire autrement et d'avoir donc un système de rendez-vous. Un étranger aujourd'hui à Poitiers, que ce soit pour renouveler son titre de séjour ou pour demander des renseignements, n'est reçu que sur rendez-vous. Comment prendre rendez-vous? Alors là, pendant un an et demi, il y a eu des histoires invraisemblables. Parce que normalement, c'est par téléphone. Bon, la plateforme téléphonique n'est ouverte que le matin. Et la plateforme téléphonique est tout le temps occupée.
tout le temps occupé. Je peux vous dire le numéro, 05 49 55 69 11. Vous pouvez le faire tous les jours. C'était tout le temps occupé. Bon. Donc, la préfecture avait eu l'idée, assez incroyable, de mettre en place Internet pour des étrangers. Et là, c'était pas compliqué. Il fallait juste avoir accès à un ordinateur, se créer une adresse mail, parce qu'il fallait, sur l'ordinateur, essayer de trouver une case où il y avait un vide, mettre son nom, le robot de la préfecture renvoyait un mail sur votre adresse, vous aviez 20 minutes pour confirmer que vous acceptiez ce rendez-vous, et la préfecture vous renvoyait un papier que vous deviez imprimer. Donc il fallait, bon, inutile de vous dire que aucun étranger ne pouvait le faire, donc c'était les associations. Donc on voyait des gens qui venaient en permanence. Sauf que, au bout de quelques mois, tous les rendez-vous étaient pleins, tout le temps. C'est-à-dire que on a fini par savoir que le mardi soir, en fin d'après-midi, il y avait quelques fenêtres qui s'ouvraient. Bon, on a fait beaucoup de manifestations à Poitiers avec l'ANSI, qui est un ensemble d'associations et de partis, et donc ils ont supprimé Internet. Maintenant, on est revenu l'appel téléphonique. Mais l'appel téléphonique, on voit arriver des gens en permanence qui, soit ils arrivent avec leur téléphone portable pour montrer l'historique, c'est-à-dire que ça fait plusieurs semaines qu'ils essayent d'avoir un numéro, ils ne l'ont jamais. Et quand ils l'ont, ça va vous paraître incroyable. Coup de chance, vous trouvez enfin sur quelqu'un qui vous répond, on vous dit, et vous lui dites, ah, voilà, je voudrais avoir un rendez-vous pour renouveler mon titre de séjour. Elle dit, ah, non, mais vous, c'est quand, dans combien de mois? Non, non, alors, rappelez dans un mois, parce que là, c'est trop tôt. Et donc, la personne passe son temps à avoir cette inquiétude, et ne croyez pas que c'est un détail. Je veux dire, ce que l'on voit à l'heure actuelle dans les permanences, c'est cette angoisse incroyable de ne pas pouvoir avoir accès à la préfecture, parce que cette absence de rendez-vous va faire que, à la fin, ils vont avoir un rendez-vous au-delà de la validité de leur titre de séjour. Donc, ils vont se retrouver en situation irrégulière alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc, vous voyez que ce problème du rendez-vous est une première chose. Et la deuxième chose qui est aussi invraisemblable, c'est le problème de la liste des papiers qu'il faut pour avoir un titre de séjour. Parce que il faut comprendre ce que souvent le migrant, l'étranger n'arrive pas à comprendre, c'est que globalement, un étranger non européen, à part s'il est un touriste, n'a aucun droit à être en France. Et donc, l'étranger n'arrive pas à comprendre que je raconte toujours la même histoire, mais une fois j'avais vu un étranger, il voulait rester en France. Je lui disais, mais alors, dans quel cas il rentre, quoi? Est-ce qu'il est parent d'enfant français? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est là depuis 10 ans? Est-ce qu'il a plein? Il disait, non, moi, je veux juste un titre de séjour normal. Et bien précisément, ça n'existe pas, le titre de séjour normal. C'est-à-dire que vous ne pouvez vivre en France, que vous installez en France, que si vous rentrez dans un certain nombre de cas. Et donc, le problème des pièces à fournir est un vrai problème. Est un vrai problème parce que d'abord, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, les préfectures pendant très longtemps n'avaient pas les mêmes listes. Alors, il y a eu depuis un mois et demi, deux mois, des nouvelles listes. Mais par exemple, sur le site de la préfecture de la Vienne, elles n'y sont pas. Il n'y en a que deux ou trois, c'est-à-dire parents d'enfants français, mariés avec un français, etc. Mais bon, donc la liste des papiers à fournir est très importante, avec maintenant de plus en plus le problème du passeport, d'avoir un titre de séjour, d'avoir un document d'identité avec photo. Bon. Et en plus, pour rendre plus compliqué l'histoire, c'est que... il y a des papiers, par exemple, qu'il faut que vous ayez automatiquement pour avoir, par exemple, une attestation d'hébergement ou du moins un loyer, etc. Bon, quand vous êtes sans papier, c'est de l'hébergement. Bon, et là, bien évidemment, vous allez faire un papier, mais il faut pas que vous le fassiez trop tôt parce que comme vous n'aurez pas rendez-vous avant 2 ou 3 mois, quand vous êtes tout content d'arriver avec votre papier, on vous dit oui, mais là, le certificat d'hébergement, il a plus de 3 mois, donc il n'est pas valable, donc on vous rend pas et on vous redonne, faut que vous repartiez, etc. Donc, cette espèce d'inquiétude permanente que je vois très bien dans l'enquête qui a été faite à Toulouse, ou bien de pas avoir de rendez-vous, ou bien d'avoir un rendez-vous, mais de pas avoir toutes les pièces, fait que c'est encore une situation invraisemblable. Enfin, il faut savoir également que pour déposer un titre de séjour, quel que soit le titre de séjour, il faut payer 50 euros. C'est comme un visa en timbre fiscal. Donc, il faut payer 50 euros. C'est pour voir, ça. C'est-à-dire que même si vous n'avez, il n'est pas remboursé, c'est exactement comme un visa. Et les taxes de régularisation, pour quelqu'un qui est rentré en situation irrégulière, donc qui n'a pas de visa, c'est à plus de 500 euros par personne. Pour des personnes qui, des familles, mettaient un couple, ils vont donc payer plus de 1000 euros alors qu'ils n'ont pas l'autorisation de travail. Bien évidemment, puisqu'ils sont sans papier. Alors peut-être qu'ils font du travail au noir, mais il faut quand même sortir 1000 euros. Enfin, plus 1200 dans le cas. Mais ce n'est pas rarissime. C'est la plupart du temps, ils sont rentrés en situation irrégulière. Donc il y a ce problème de la régularisation qui est. Donc si vous rajoutez tous ces problèmes, c'est-à-dire la difficulté d'avoir un rendez-vous, la difficulté d'avoir les pièces qu'il faut, la difficulté d'avoir l'argent, vous comprenez que les migrants vivent dans un sentiment d'insécurité permanent. Car en plus, la plupart des titres de séjour sont des titres de séjour courts. Tout à l'heure, on revient pas sur l'histoire du titre de séjour pour soins avec la nouvelle réforme démente qui vient d'être mise, mais c'est des titres d'un an la plupart du temps. Certes, la préfecture depuis 2 ans, il y a des nouveaux titres pluriannuels. Alors, au départ, c'était pour les étudiants. On devait faire un titre de 3 ans pour des cycles universitaires. Mais maintenant, ils ont décidé de faire un titre pluriannuel qui serait de 2 ans. Mais en définitive, ça dépend uniquement de ce que va vouloir la préfecture, puisque elle a prévenu déjà que si on donnait un titre de 2 ans, la préfecture pouvait, au bout d'un an, redemander les papiers pour savoir si le titre de séjour qui était valable sur 2 ans, les conditions qui avaient été données au début était toujours vrai au bout d'un an. Donc en réalité, le titre de séjour de 2 ans se retransforme en titre d'un an, puisque à mi-chemin, la préfecture redemande qu'on prouve. Donc il y a une espèce de truc kafkaïen dans cette histoire. C'est-à-dire le migrant, à peine il a eu enfin son titre de... Alors en plus, la plupart du temps, il se fait arrêter là, mais il n'a pas son titre de séjour tout de suite. Donc il a un récépissé. Bon, avant, il y avait des fois, il y avait 3 ou 4 fois. Alors un récépissé de 3 mois. Bon, après, il a un deuxième récépissé de 3 mois. Donc, au bout de 6 mois, il a eu sa carte de séjour valable 1 an, mais qui part depuis le début. Donc, elle n'est plus valable que 6 mois. Et au bout de 3 mois, il est déjà en train de se dire, il faut que je prenne rendez-vous pour l'année suivante. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le type, il est en permanence sur un siège éjectable. Parce que la carte de résident de 10 ans, c'est le Graal. Ça, il y en a, elle est de moins en moins donnée. Et elle est surtout donnée, à part pour des cas particuliers comme marié avec un Français ou une Française ou parent d'enfant français, la carte de résident, elle a comme principale condition, il faut avoir des ressources stables et suffisantes. Donc, ça veut dire... Pendant très longtemps, c'était 1,5 fois le SMIC. Bon, et donc, dans la préfecture de Poitiers, c'était ça. C'était exactement aussi difficile d'être naturalisé que d'avoir la carte de séjour. Parce que le critère du pognon était le seul critère. On a amusé la galerie sur les naturalisations avec l'idée qu'on allait apprendre l'histoire de France, la géographie. C'est pas vrai, le seul critère, c'était le pognon. Si vous n'aviez pas, sur 3 ans, des relevés d'impôts égal ou supérieur à un SMIC mensuel, la demande de naturalisation n'était pas... Et c'est pareil pour la carte de 10 ans. Donc, je veux dire que la multiplication des titres courts fait que le migrant est toujours dans une situation de grande instabilité, de grande insécurité, et après, on s'étonne qu'il ne soit pas intégré. On lui dit, vous pourriez faire quand même un effort pour vous intégrer, quoi. Je ne parle même pas de l'assimilation des fous, mais l'intégration, déjà. Voilà.
Donc maintenant les prises de parole de les interventions de la salle. Donc il va falloir être court parce qu'il faut qu'on soit parti un peu avant 11h. Donc sinon Frédéric a fait référence au débat d'avant où il y avait Jean-Pierre Martin, Claire Jéquier et Patrick Dubreuil. Qui vont peut-être intervenir dans le débat. Sinon, qui veut prendre la parole ? Hop.
Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est juste mon nom, c'est Ngom Omar. Je suis un ancien étudiant de l'Université de Poitiers. Donc, je profite de l'occasion pour remercier M. Yves Jaïd et Martine Massé qui m'ont reçu dès mon arrivée. Donc, tout ce que M. Jude a dit, je ne ferai que confirmer. L'étranger, un francophone comme moi, du pays de Senghor, on n'a pas la chance de faire l'école maternelle. Pour avoir la chance de faire l'école maternelle, il faut être issu d'une classe aisée. Ce n'était pas mon cas. Voilà. Donc, à l'école des arts, on nous exige, même si vous commettez une demi-faute en français, c'était des fessées. Et même les dictées, c'était extraordinaire. C'était, en quelque sorte, commettre un crime en commettant une demi-faute. Tu parles le français, tu viens ici, et tu as l'impression que tu n'appartiens pas à la France. Et quel est l'intérêt de la francophonie? Je me demande. Moi, j'étais un ancien international, un ancien sportif de haut niveau. Je suis arrivé à Poitiers avec la bourse de mon gouvernement. Entre-temps, c'était un gouvernement libéral. Ce gouvernement avait perdu les élections. Il y avait un autre régime. J'ai perdu ma bourse. Et je suis issu du système de formation et de certification des entraîneurs internationaux d'athlétisme. Donc, mon statut, mon diplôme était au-dessus de la Fédération française d'athlétisme. Donc, je n'avais pas d'équivalence. Donc, je ne pouvais pas avoir un salaire. Mais j'avais des primes parce que j'intervenais dans les clubs de football, d'athlétisme et ailleurs. Et j'avais du mal pendant 3 ans à avoir un titre de séjour parce que je n'avais pas un rapport humain, ce contact humain avec la préfecture. J'étais considéré comme un délinquant. Il a fallu qu'un couple me prenne en charge pour que je commence à vivre, être un être humain en quelque sorte. Et je pense que la France ne mérite pas ça. Moi, j'ai honte actuellement de retourner au Sénégal, dire aux gens ce que j'ai subi en France. Si j'étais quelqu'un qui n'avait pas une formation de base, une éducation militaire, parce que dans ma famille, on a une tradition militaire. Et vous ne pouvez pas savoir que la base de l'armée, de l'empire colonial, des forces spéciales de l'empire colonial, était constituée de Sénégalais. Et moi, c'était une culture dans ma famille. Je viens ici, on me traite comme un délinquant, comme quelqu'un qui n'est pas français. Bien sûr, je ne suis pas français, mais je suis sûr que si la France était attaquée aujourd'hui par un ennemi, je ferais partie des premiers au front. Je vous remercie.
Bonsoir. Ben, moi, je suis né en France. Et j'ai l'impression, depuis quelque temps, que c'est l'ancien pays des droits de l'homme. Avec un gouvernement actuellement qui fait ce que vous nous relatez, quoi. Alors, est-ce que au niveau de médias, il y a une école de journalisme à Lille, par exemple, est-ce qu'il y a des jeunes apprentis qui ne sont pas trop dans le format de convoiter une place au Figaro ou Paris Match ou je ne sais pas quoi, qui pourraient filmer discrètement ce qui se passe du côté de la gare de Calais pour diffuser ça sur YouTube ou je ne sais pas quoi, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui voient un peu ce qui se passe avec le gouvernement français, actuel et peut-être passé et futur. Et si vous étiez nommé ministre des droits de l'homme au prochain gouvernement ou carrément présidente de la République, qu'est-ce que vous feriez pour arrêter de continuer? Moi, je constate que là, il n'y a même pas vraiment une politique gouvernementale, il y a une politique, enfin, il y a de casser les personnes qui sont en France, qui sont en demande de situation régulière. Mais il y a, j'ai pas entendu dans les discours des candidates, de la candidate et des candidats, ce qu'ils feraient par rapport aux causes d'immigration. Donc, je vous renvoie la question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez nommé ministre des droits de l'homme?
J'aborderai déjà la question de l'asile et des réfugiés, non pas au niveau national, parce que c'est un phénomène qui est, en croissance, c'est un phénomène mondial. Donc, je pense que c'est au niveau de l'ONU, c'est au niveau des organisations internationales, qu'est-ce que ça devrait se passer avant toute chose, mettre en place une structure type HCR ou autre, mais qui ait un vrai mandat. Le HCR était une organisation qui a fonctionné, qui a fait apathique et qui fonctionne très bien, mais qui a été cassée par notamment les Américains avec la première guerre du Golfe. Enfin, depuis la première guerre du Golfe, parce que les Américains ont une politique qui est contre le multilatéralisme. Et donc, ils ont mis en avant une autre organisation qui s'appelle l'OIM, l'Organisation internationale de l'immigration, qui, elle, est beaucoup plus soumise aux financeurs, c'est-à-dire aux États, parce que ce n'est pas une agence de l'ONU. Donc peut-être remettre en scène une organisation de type HCR qui puisse prendre en charge des plans de répartition des réfugiés à une échelle globale. Je crois que ça serait déjà un bon point. Juste une anecdote, à la fin des années 70, alors 79, vous avez eu la crise des Vietnamiens, le people. 500 000 personnes, ça a concerné à peu près 1 million de personnes. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu une conférence internationale qui a réuni 65 pays qui se sont mis d'accord sur un plan de répartition de 10 à 20 000 personnes par mois. En 2 ans, ils ont réinstallé plus de 620 000 personnes par. Donc ça a bien marché. À l'époque, c'était Giscard d'Estaing, il envoyait des avions d'Air France pour aller chercher 1 000 à 2 000 personnes par mois. Il y a un peu la différence par rapport à aujourd'hui. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Et ça serait déjà une bonne chose. Après, pour la question des migrations volontaires, les migrations. Donc là, je crois qu'il faut se réapproprier collectivement ce que c'est que l'immigration. Je crois qu'il faut redonner un sens collectif à ce qui est au fond du fond un phénomène social tout à fait normal, un phénomène qui nous concerne parce que nous avons tous été migrants un jour ou l'autre, ou que nous avons connu dans notre entourage un migrant, quelque chose qui nous fait partie de notre quotidien. Voilà, donc déjà essayer de faire passer cette idée là. Les migrants, c'est un phénomène. Bon, c'est comme l'inflation en économie, c'est comme la démographie, les naissances. C'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement des sociétés. Il n'y a pas une société au monde qui ne soit pas une société d'émigration et d'immigration. Donc ça, déjà dépassionner le débat, et puis pour essayer de mettre en œuvre une politique d'ouverture des frontières qui permette de réinstaurer une circulation. Une fluidité dans les mouvements humains et une interdépendance entre les sociétés qui permettent de gérer ça en toute tranquillité. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de. Récemment, l'Union européenne a accordé à l'Ukraine et Géorgie et Ukraine des très forts assouplissements sur la question des visas. Maintenant, c'est très facile pour les Ukrainiens et les Géorgiens de venir en Europe. Vous voyez, il n'y a pas eu d'invasion. Ça s'est passé tout à fait normalement et c'est possible d'ouvrir, de mettre fin à ce blocus de façon apaisée, mais graduellement. Voilà. Sinon, peut-être au quotidien, pour régler les affaires, des petites choses qui peuvent améliorer demain la situation. Déjà, de toute façon, on en a parlé tout à l'heure, rétablir le droit de travail pour les demandeurs d'asile. Ça, je crois que c'est la base. C'est complètement anormal qu'on leur prive. Ce droit leur a été retiré en 1994, il me semble. Hein. C'était, et là, ils reçoivent une allocation de 200 euros par mois, c'est ça ?
Et 11 euros.
Donc un peu plus de 300 euros. Mais c'est net ou quoi ?
Et d'ailleurs, 300 euros. Le mal n'a pas arrêté de dire que maintenant, on distribue des cartes bleues. Car en effet, juste un mot technique, parce que c'est bien une carte. C'est une carte qui est donnée par l'OFI et ils peuvent directement retirer. Alors le Front National et d'autres disaient ils peuvent maintenant dépenser 40 euros par jour. C'est pas vrai. Ils peuvent retirer que des petites sommes, puis ils ont droit à 10 euros par 10,30 € ou 10,60 € par jour et par adulte.
Juste une petite chose sur la circulation. Je voulais juste faire passer l'idée qu'un mur, quand on le dresse, ça bloque les flux dans les deux sens. D'ailleurs, peut-être que ça bloque les gens qui veulent venir, mais ça bloque aussi les gens qui veulent repartir. Et ça, on voit très bien ça. Hein, quand une législation est durcie, on voit la baisse du nombre de retours. Et pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas repartir dans leur pays d'origine, parce que si leur réinstallation se passe mal, ils n'auront plus la possibilité de faire marche arrière. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est scientifiquement démontré empiriquement, et ça, malheureusement, faire passer un discours comme ça, c'est pas possible. Voilà.
Il y a quand même un gros intérêt à empêcher les gens de travailler, c'est que ça permet un travail au noir tout à fait rentable. En Savoie, les gens qui nettoient pendant la saison d'hiver les studios, enfin les studios ou les appartements en station, il y a du travail tout à fait officiel, puis il y a beaucoup de travail au noir. C'est-à-dire que moi je l'ai découvert comme ça, hein, c'est que je ne m'étais jamais posé la question. J'ai beaucoup de patients qui donc sont pris le samedi matin à 5h du matin à Chambéry ou Albertville, passent toute la journée à nettoyer des appartements pour le ski et sont payés à coups de lance-pierre. Voilà, il y a aussi tout ce système que ça entretient. Ça permet aussi une délinquance. Enfin, ça entretient aussi une délinquance. Un type de délinquance, puisque les gens doivent survivre et se procurer quand même des moyens d'existence. Donc, parce qu'il y a quand même des intérêts très actifs aussi pour ne pas. Alors, il y a toujours la métaphore complètement usée de l'appel d'air, c'est-à-dire que si les gens sont logés, si les gens sont hébergés tout de suite, comme vous venez de le dire à l'instant, bien évidemment, des centaines de milliers de gens vont arriver par tous les moyens possibles et imaginables pour bénéficier des merveilleuses conditions d'accueil dans les centres d'hébergement d'urgence français. Mais il y a quand même, sur le travail, il y a ce lien-là, ça entretient une main-d'œuvre captive, bon marché, qui ne peut pas se plaindre de ses conditions de travail de façon officielle, qui ne peut pas aller porter plainte. J'ai un patient qui a porté plainte contre son employeur. Vous êtes dans une situation très précaire sur le plan d'une carte renouvelable. Qu'est-ce que vous allez aller vous plaindre de vos conditions de travail tout cet aspect quand même très... Très
si vous avez une carte, si vous avez un titre de séjour, vous travaillez normalement. Là, nous, le travail au noir, il est pour les gens qui n'ont pas de titre de séjour.
Oui, je suis d'accord, mais c'est aussi en résonance. C'est-à-dire que vous avez les gens sans titre de séjour qui travaillent au noir. Oui. Et puis vous avez des gens avec des titres de séjour précaires qui sont employés éventuellement officiellement, mais dans des conditions tout à fait souvent problématiques, et qui, eux, ne vont pas non plus... Effectivement, c'est des situations différentes, mais qui ne vont pas non plus... pouvoir porter plainte, en tous les cas revendiquer des conditions de travail correctes. Enfin, c'est tout un système qui se tient, qui a sa cohérence. C'est impressionnant quand même, hein. Et ça joue bien sûr sur la santé des gens.
Je voulais juste dire un mot, parce que il faut rappeler quand même, parce que ce qui m'étonne le plus quand même dans la France actuelle, c'est de voir combien le discours du Front National et de la droite en général maintenant, pas uniquement le Front National, et toujours de dire que les migrants ont droit à tout, que les étrangers sans papier, on leur donne des logements, ils ont des bagnoles, ils ont tout. Bon, il faut quand même savoir qu'une personne qui est sans papier n'a le droit à rien. La seule aide qui lui est donnée, c'est par le département, c'est 250 € pour une famille. À condition qu'il y ait un enfant, qui en ait un ou qui en ait huit, c'est 250 €, c'est tout. Les allocations familiales, les logements sociaux, ce n'est pas donné aux personnes en situation irrégulière. Or, en permanence, et c'est là où on voit quand même qu'il y a un problème, c'est que comment se fait-il que ce discours haineux de la droite et du Front National qui dit « les migrants ont droit à tout », alors que dans la réalité, ils ont droit à rien, s'ils ne sont pas en situation régulière. Parce qu'une fois qu'ils sont en situation régulière, ils ont droit aux allocations familiales. Bon, il n'y a pas de problème. C'est quand même extraordinaire de voir combien
On a beau le répéter, le hurler à chaque fois, mais non, ils ne sont pas. Nous, sur Poitiers, qui est une petite ville, on sait où sont les personnes qui sont en situation irrégulière. On sait dans quelles conditions infâmes ils logent. C'est des bailleurs privés où les 250 euros qui sont donnés par la préfecture, par le département, payent le loyer et que tout le reste, ben, c'est, ben, ils vont aller au Secours catholique, aux épiceries sociales, au Resto du Cœur, etc. Ils n'ont droit à rien. Donc, c'est, moi, ce qui me pose vraiment la question, c'est de savoir comment se fait-il que le discours de la vérité, alors puisqu'on parle maintenant comme ça, eh bien, il ne peut pas gagner. Quoi.
Oui, il y a une autre, par rapport au travail, il y a une autre situation perverse, effectivement, qui est celle des migrants qui obtiennent un titre de séjour pour étrangers malades sans autorisation de travail, ce qui met effectivement encore plus dans une situation bancale. Ah, non, pas forcément. Non, on a.
Quand ils ont des autorisations provisoires de séjour pour soins.
Oui, mais avec.
C'est pas légal, mais il y a certaines.
Voilà. Mais sans.
Voilà.
Oui, oui, non, mais c'est très pervers, effectivement, parce que ça peut durer très longtemps comme ça. Alors, ce n'était pas une question, mais c'est une petite intervention, une information. On parlait de la politique gouvernementale. Je viens de recevoir une alerte. Moi, je suis gardois. Donc, entre parenthèses, on parlait des flux migratoires dans tous les sens. On trouve dans les vignes gardoises et dans le vignoble un certain nombre, effectivement, de travailleurs sans papier, sans droit ni loi, qui ont remplacé, effectivement, avantageusement, du moins pour les employeurs ou les exploiteurs, les Marocains qu'on allait chercher, qu'on faisait venir auparavant pour travailler dans les vignes, outre que les vignes se mécanicisent. Mais juste une petite information sur la politique gouvernementale. Le 28 octobre 2016, Bernard Cazeneuve avait déclaré que les migrants de Calais qui aboutissaient dans les CAO ne seraient pas dublinés. Et je viens de recevoir une alerte là, donc du CAO de Nîmes, indiquant que le préfet de Nîmes avait convoqué un certain nombre de personnes qui sont dans le CAO, issues du Soudan pour la plupart, pour les renvoyer dans le pays où la première demande a été faite, donc souvent l'Italie, effectivement. Donc comment on peut croire les promesses à ce niveau-là?
J'ai des collègues qui m'ont envoyé un petit papier qui relate le 6 juillet au foyer d'accueil des mineurs isolés étrangers Bellevue de Châlons en Champagne, gérée par une association, donc une association bien sous tout rapport, la Sauvegarde de la Marne, qui a été terrorisée par l'arrivée des forces de l'ordre dans le centre d'accueil et donc qui est un peu troublée, s'est défenestrée et est mort le 6 janvier. Là-dessus, les collègues ont commencé effectivement à dénombrer les suicides de personnes migrantes dans les dernières semaines. On en a un peu dénombré 7. Bon, mais là, je peux vous donner déjà le nom de ce jeune qui s'est défenestré. Et la question, c'est que c'est un jeune qui a mis fin à ses jours alors qu'il était accueilli dans une structure, un centre d'accueil censé le protéger. Et qu'on voit bien qu'effectivement, le sentiment d'insécurité, donc même quand on est accueilli dans un centre d'accueil, est mis à mal. Et que là-dessus, il y a quand même des personnels, vous parliez des bénévoles tout à l'heure, qui sont un petit peu burn-outés de l'intérieur, parce qu'ils sont usés, et qu'il y a des personnels qui se sont mis à analyser la situation qui a fait que ce jeune a pu se défenestrer. Et donc des personnels ont dit, mais oui, mais peut-être il y a un manque d'accompagnement, il y a un manque de soutien, il n'y a pas d'accueil le week-end. Et la réponse qui lui a été faite, c'était une sanction. Donc... si vous voulez, parce que je vois il y a pas mal de critiques aussi qui sont faites à l'égard des structures et des professionnels qui travaillent dans ces structures d'accueil, mais ces personnels sont aussi en difficulté. Et j'en arrêterai là parce que le dernier numéro de mars 2017 du GISTI, à l'intérieur, un petit dossier qui relate des témoignages de travailleurs sociaux, d'intervenants dans ces centres, qui disent la difficulté et qui disent effectivement comment... cette pression qui est mise sur les migrants, elle est mise aussi sur eux. Et notamment, ils expliquent, vous parliez de la question des droits. La question, c'est aussi de la difficulté, comment le droit s'exerce et comment à la fois les associations militantes et les professionnels ont du mal à mettre en œuvre l'exercice du droit. Et quand Yves, tu parles des difficultés que vous rencontrez, qu'on rencontre à la préfecture, que tu sois professionnel ou militant associatif, tu les rencontres aussi quand tu accompagnes des gens dans les démarches aux préfectures. Et que ça, ça contribue effectivement à la fois à discréditer aussi des fois l'image des institutions qui se mobilisent plus ou moins bien et avec des travailleurs sociaux qui essayent de plus ou moins faire leur travail. Alors ça va effectivement à tous les travailleurs sociaux, il y a aussi des travailleurs sociaux qui sont au Front National, effectivement, hein, tout le monde, les travailleurs sociaux ne sont pas tous des militants associatifs, voilà. Simplement, donc je vous recommande de la lecture de ce dernier numéro du GISTI là, de mars 2017.
Bonsoir, merci déjà pour votre conférence. J'ai appris énormément de choses et j'ai trouvé ça très intéressant à mon humble niveau. Alors du coup, c'était intéressant de savoir comment s'occuper des migrants, que ce soit en France ou d'autre part en Europe. Mais la question que je me pose, c'est ces migrants, ils arrivent et ils vont continuer de venir finalement. Et donc je vois, il y a ce flux qu'on empêche. C'est un problème qui fait qu'ils ne peuvent pas repartir. Mais le problème, enfin, il y a peut-être un problème, il y a un autre problème de fond, c'est le fait qu'ils partent aussi de chez eux, ces migrations forcées. Il y a un problème de fond, en fait. Est-ce que finalement, on n'a pas un peu l'impression de se battre contre des moulins à vent, enfin, je sais pas, ou de réparer des pots cassés qu'on recasserait derrière? Parce qu'on s'occupe de ces migrants comme ça, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont faites pour en amont, quoi, pour pas empêcher, mais pour les garder, plus que de payer ces gouvernements, si ce que j'ai cru comprendre, qu'on payait certains gouvernements pour que ils nous envoient pas leurs migrants, quoi, parce qu'on n'en veut pas. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont faites derrière, quoi?
Ce que je disais, c'est l'essentiel des flux migratoires dans le monde sont produits par des situations de développement. Donc, on peut essayer de financer du développement pour arrêter l'immigration, mais ça ne marche pas comme ça. D'accord ? Donc, on ne va pas non plus mettre une pression sur un pays pour arrêter sa dynamique de développement. Ça n'a pas de sens non plus. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une migration qui est générée par du développement est généralement une migration qui est temporaire. Et ça, c'est des personnes qui sont en train de traverser un moment d'ajustement de l'économie, et donc qui vont partir pour un projet, pour accomplir un projet de soudure. De soudure, ils partent, ils apportent à leur foyer un revenu supplémentaire, puis ensuite ils reviennent. Où ils ont un projet de construire une maison ou d'acheter un tracteur et puis hop, ils font leur projet. Voilà, ça c'est des migrations qui sont liées au développement. Alors les arrêter, c'est pas possible, c'est pas souhaitable, etc. Le tout problème, c'est effectivement des migrations qui sont générées par des chocs géopolitiques ou des chocs environnementaux. Où là, en particulier pour les chocs géopolitiques qui sont durables, là les personnes ne peuvent pas revenir. Donc là, ce que je disais, c'est que là aussi, bon, le traitement, essayer de démocratiser l'Érythrée ou le Soudan, c'est très bien, mais comment faire ça, moi, je ne sais pas. Hein. Non, mais par contre, une prise en charge des populations qui sont réfugiées doit se faire, à mon avis, à l'échelle globale et pas à l'échelle d'un pays ou d'un groupe de pays. Hein, c'est quelque chose, c'est là où une prise en charge par une organisation internationale en amont peut se faire, avec l'établissement de camps de réfugiés à court terme et des plans de répartition à plus long terme, ou des plans de réinstallation si la situation le permet. Donc oui, il y a des choses comme ça qui se font, mais qui sont vraiment insignifiantes par rapport aux besoins. C'est tout, tout problème, c'est, il est là. Et tout l'autre problème, c'est vraiment le traitement indifférencié des deux cas. J'ai bien séparé le cas de l'immigration liée au développement et l'autre immigration liée aux crises géopolitiques, mais dans les faits, dans les pratiques, ceux qui formulent les politiques ne font pas cette différence-là. Donc le traitement, il n'est pas adapté. Et on a affaire à des flux, en particulier ceux qui transitent par la Libye, qui sont mixtes, qui se mêlent les deux types de flux. Et donc, c'est une difficulté, mais qui n'est pas insupportable au regard des pouvoirs publics. Essayer de décrisper la situation en accordant plus facilement des visas permettrait aussi aux personnes de s'installer puis de repartir. Hein, et ça. Ça réglerait la moitié du problème, hein, clairement. Voilà.
Oui, bonsoir. Merci pour toutes ces interventions précises et qui nous informent aussi de Calais. C'est un peu loin de Poitiers. Je connais un peu mieux la situation de Poitiers avec... notre ami Yves et Yvon qui sont là, qui n'a rien dit encore, mais qui travaille beaucoup pour ces problèmes de droit. Et puis je rejoins un peu la position de ce jeune homme-là. Quand même, on arrive à une situation où on constate qu'on est dans l'impasse, quoi. Je veux dire, des migrants, il y en a toujours, il y en aura toujours, j'espère. Et puis on a des associations qui sont de plus en plus fatiguées, hein, on parlait de burn-out, et puis on a des gens qui sont de plus en plus montés contre les migrants, par certains qui s'y emploient assez bien. Quand même, il y a peut-être un problème de fond qui est aussi le rééquilibrage des rapports Nord-Sud. Vous avez parlé de développement. Bon, moi je veux bien que le développement des pays en voie de développement entraîne de l'immigration, mais je ne crois pas que ce soit le problème principal. Je dirais que c'est l'inverse, c'est qu'il n'y a pas assez de développement qui permette de créer des emplois dans les pays d'origine, notamment pour l'Afrique de l'Ouest que je connais assez bien. On a spolié les matières premières pendant des siècles. En retour, on a donné que quelques miettes, quoi. Hein. Donc, je crois qu'on a un problème de fond. Du temps où j'étais en coopération, je crois que c'était en 89, Mitterrand avait dit au Congrès de la Bolle qu'il fallait passer à 0,7% du PMI ou je ne sais quoi pour l'aide au développement. On en est toujours qu'à 0,2%. Et puis, encore dans ces aides, on peut remettre en question quelle aide on apporte vraiment aux pays en voie de développement pour qu'ils s'en sortent. Donc je pense qu'il y a un gros problème de rééquilibrage des rapports des pays dominants du Nord, hein, Amérique, Europe, voire des pays arabes pétroliers aussi, hein, par rapport aux pays réellement qui ont un besoin de développement et qui sont aussi en développement démographique.
Il y a encore une dernière intervention, puis après ça va être... pour vous à conclure, je suppose.
Oui, j'ai un dernier mot. On est en campagne électorale. On adhère. Quelques-uns d'entre nous sont dans des partis politiques ou dans des mouvements politiques. Et donc, les questions internationales, on doit les penser dans ces organisations et la résolution des conflits. Il est quand même hallucinant de voir que dans le débat actuel, certains parlent d'Europe de la défense, mais on parle de la militarisation de l'Europe. Avec toutes les guerres, les conflits régionaux qui puissent... Mais on parle très peu de construction de la paix. Le seul qui en parle dans le dernier débat, c'était Mélenchon. Alors maintenant, voilà. Il y avait, comment dire, un écrivain algérien qui a dit une chose aussi assez juste, c'est que en parlant des printemps arabes et des problèmes dans les pays du Maghreb, c'est que les dictatures et les régimes islamistes intégrés sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on organise un peu ce genre de choses, quoi. Soit c'est la dictature, soit c'est le chaos des milices de tout poil, notamment en Libye. Donc les progressistes se font tous zigouiller les uns après les autres, que ce soit au Liban, en Syrie ou ailleurs. Donc, voilà. On est des citoyens, mais quand est-ce qu'on va discuter de questions de paix et imposer à cette putain d'Europe une vraie politique de construction de la paix dans le monde ?
Bon, voilà. Je veux dire, Bachar el-Assad, on l'a laissé faire pendant des années et des années, quoi. Bon, c'est vraiment... c'est, ça fait mal au ventre de voir des évolutions politiques comme ça. Et voilà. Donc, interpellons nos organisations politiques en France et mettons ces questions internationales dans le débat, quoi. Ces questions de débat démocratique dans les pays en guerre, quoi. Enfin.
Je vous propose de faire chacun une conclusion. Et puis, comme je, ça ne se voit pas, mais je suis président de séance, je ferai un petit mot à la fin.
Je n'ai pas de conclusion.
Oui, après la dernière intervention, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hein. Oui, non, ben, complètement d'accord. Hein. Voilà, il y a cette politique de la paix à mettre en place, ça c'est sûr. Alors, vous savez, le niveau de violence dans le monde est en baisse tendancielle. C'est ce qu'on observe. Il y a de moins en moins de morts violentes dans le monde. Donc on peut espérer que ça va continuer. Bon, le souci qui va prendre le relais, ça va être les crises environnementales. Et ça, la violence, cette violence environnementale-là, c'est aussi une autre politique à mettre en place.
Je pense qu'il faut localement militer auprès des migrants, quoi. C'est la seule solution, puisque notre voix, elle ne s'entend pas, quoi. Tout à l'heure, on parlait des débats politiques. Moi, j'ai été écouté, y compris Mélenchon. Je veux dire, je n'ai pas entendu le truc que tout le monde dit, c'est les déboutés d'ordre d'asile, il faut les renvoyer. Macron l'a dit, Fillon l'a dit, Mélenchon l'a dit, ils le disent tous. Bon, il faut renvoyer les déboutés de droit d'asile. Alors, les déboutés de droit d'asile, c'est tout le monde. Tous les gens que je connais à Poitiers sont des déboutés de droit d'asile.
C'est difficile de conclure sur une question pareille, je ne sais pas. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que c'est pas... Enfin, comment dire... On parle beaucoup de la crise des migrants. On l'a dit aussi, c'est une crise de l'hospitalité. C'est un refus... voilà, c'est... Quand on regarde, ne serait-ce que les... Enfin, combien on est 1 250 000 d'Européens? Bon. Alors, le fait qu'on puisse pas métaboliser en Europe, finalement, un si petit nombre, ça pose question. Donc, voilà, conclure en disant que oui, donc c'est pas une crise des migrants, c'est une crise de l'hospitalité, que la question pour nous maintenant, c'est de renverser la tendance.
Merci beaucoup. Donc, pour l'Union syndicale de la psychiatrie, l'enjeu était de renforcer des liens avec Médecins sans frontières, avec la plateforme Solidarité Migrants, avec d'autres ONG. Nous sommes aussi, on intervient aussi en Grèce en solidarité, on fait partie d'un réseau santé mentale. Donc on a des interventions internationalistes plurielles à la mesure de nos forces modérées. C'est ce que croit. D'ailleurs, les psychiatres de la salle vont sans doute atterrir assez rapidement. Et que la nuit vous soit douce, à bientôt, au revoir.
Je suis arrêté à Nice, c'est tout.